7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 avril. Bienvenue sur Europe 1 pour une matinale spéciale à Lyon en direct de l'hôpital Édouard Herriot, l'un des plus grands hôpitaux de France. Vous allez rentrer avec immersion ce matin dans ce CHU. Vous allez découvrir ce que vous ne voyez jamais. On va vous raconter le parcours type d'un patient, vous, moi, nous. Que se passe-t-il une fois que vous avez composé le 15? Qui sont ces hommes et ces femmes qui vous répondent? Comment gèrent-ils l'urgence, le stress et votre prise en charge? À 7h15, nous serons précisément en direct du centre d'appel du SAMU. C'est un endroit stratégique aux côtés de ceux qu'on appelle les assistants de régulation. À 7h45, on poursuivra notre plongée au cœur de l'hôpital Édouard Herriot puisque nous serons cette fois dans le grand bâtiment des urgences. C'est là que vous arrivez en cas de problème vital. Vous savez, quand il y a un malaise cardiaque, un AVC, un accident de la route. Mais c'est le service des urgences aussi où on voit les jambes cachées, des jambes cassées, des accidents domestiques. Bref, c'est un flux continu de patients qu'il faut gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous emmènerai auprès de ceux qui nous soignent au sein de l'hôpital qui nous accueille ce matin. Ce CHU, vous le verrez, doit faire face aussi à la réalité, aux problèmes quotidiens que connaissent tous les hôpitaux de France. Manque de lits et d'effectifs, parfois horaires à rallonge des urgentistes, gestion de situations exceptionnelles. On pense notamment aux attentats, aux épisodes de canicule, aux épidémies comme la grippe. Nos équipes ont passé la semaine ici à Lyon. Vous entendrez leurs récits, des reportages au plus près du personnel soignant et des malades. Cet hôpital, on a voulu vous le montrer parce que c'est aussi un hôpital qui innove. Vous apprendrez par exemple dans le journal de 8h qu'ici, on utilise un cœur portable. Si vous faites par exemple un infarctus dans la rue, concrètement, c'est une sorte de pompe cardiaque qui va remplacer momentanément votre cœur jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. À mes côtés, évidemment, Mélanie Gomez, notre consoeur spécialiste santé de la rédaction. Et puis à 8h15, l'interview politique. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sera avec nous ici en direct de Lyon. On lui posera beaucoup de questions concernant l'actualité et l'actualité autour de la santé en France. Ça, c'est le programme de cette matinale un peu spéciale. On est ensemble jusqu'à 9h ici à l'hôpital Édouard Herriot en direct de Lyon. Bon réveil à tous.
Merci Nico Saliagas.
Merci Pierre.
Et bonjour à tous.
Bonjour.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce vendredi 5 avril. Bon réveil à tous. Il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas à Lyon et Pierre Devunon, studio à Paris.
Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de votre journal de 7h.
Cette matinale spéciale à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon avec dans un instant une plongée au cœur des urgences avec Jean-Luc Bougeon. L'article phare de la loi anticasseur retoqué par le Conseil constitutionnel, il prévoyait l'interdiction préventive de manifester pour des personnes présumées dangereuses. Et puis clap de fin pour le grand débat avec le déplacement d'Emmanuel Macron hier en Corse. Il reproche aux nationalistes l'absence de regret au sujet de l'assassinat du préfet Erignac. Et tout de suite, on vous retrouve à Lyon, Nikos.
Oui, absolument, Hélène Zelani. Dans trois quarts d'heure, on sera en immersion au cœur du réacteur des urgences. Mais je me trouve à côté de Jean-Luc Bougeon. Vous le connaissez, c'est notre correspondant à Lyon et dans la région. À vous, vous avez passé cette semaine ici, vous avez rencontré le personnel. Et racontez-nous comment ça s'est passé.
Eh bien oui, j'étais aux urgences, donc au pavillon N. Et je peux vous dire, Nikos, que quel que soit le moment de la journée, il n'y a aucun temps mort. C'est de l'intensif en permanence et même du super intensif en fin de journée ou la nuit, comme ici à 22h, quand un jeune homme arrive en pleine crise d'angoisse.
Monsieur, vous m'écoutez? Vous allez prendre des grandes inspirations, là. Le cachet, je vous ai donné, normalement, il apaise. Allez, voilà, on va vous mettre dans une pièce calme, tranquillement.
Alors, le jeune homme sera examiné par un médecin, mais après plusieurs heures d'attente, car évidemment, eh bien, aux urgences, on attend. Lorsque j'étais là, il y avait au moins 10 personnes qui patientaient sur deux lits dans des couloirs. Et parfois, c'est davantage, hein, regrette Marie-Cécile Anzo, médecin de garde ce soir-là.
Ça fait vraiment 5 ans que les choses s'aggravent, je trouve. Les gens, ils viennent aux urgences parce qu'ils ont mal à la gorge, parce qu'ils ont un rhume, parce qu'ils toussent. Du coup, le souci, c'est qu'en fait, on a un afflux massif de patients. Il faut réussir à trier au milieu de tous ces patients quel est le patient grave ou potentiellement grave. Et donc, du coup, ça rend les choses encore plus difficiles.
Et cette attente parfois longue, cela provoque des tensions, comme ici, cette patiente qui s'en prend à un infirmier.
C'est ça, moi, qu'on vous demande. C'est ça, moi. J'ai attendu.
Et je peux pas vous garantir que dans les 10 minutes, tout vous allez passer.
Passé. Tout le monde est passé.
Et c'est possible que vous attendiez encore.
J'ai juste demandé un antidouleur parce que j'avais mal. Il vous faut quoi? Il faut que je pisse ce sang ou quoi?
Ça sert à rien d'être grossier. Ou je vais pas vous donner un traitement comme ça. Je veux que vous voyez un médecin.
Voilà, pas évident de rester toujours calme et lucide, explique Lionel, l'infirmier pris à partie à l'instant.
Il faut être super vigilant parce qu'il faut l'écouter. D'après ce qu'elle dit, elle a été agressée. Elle demande en même temps un traitement qui n'est pas anodin, qui est des opiacés en fait. C'est pas si facile que ça.
On ne sait jamais si on prend la bonne décision.
Non, non. Et puis il ne faut pas céder en fait parce qu'elle fait monter les enchères. Elle a certainement mal, mais je ne suis pas un distributeur de médicaments en fait. On est moins tolérant en fin de journée. Je suis là depuis 6h30 ce matin.
Voilà, toute la difficulté du travail aux urgences, elle est là. Continuer à bien soigner, à accueillir tout le monde, hein, parce que c'est la mission de service public de l'hôpital. Même quand on fait des journées de 12 heures d'affilée, ce qu'est le cas de cet infirmier, tout en faisant face à des patients parfois très durs qui insultent ou sont violents, ce qui arrive malheureusement de plus en plus.
Il dit précisément « Je ne suis pas un distributeur de médicaments ». Il faut l'entendre, le quotidien des médecins et du personnel soignant. Merci Jean-Luc Boujon depuis Lyon. Nous sommes en direct du CHU et Hélène Zélani, Pierre de Villeneuve, le reste de l'actualité, c'est tout de suite.
Il est 7h03 sur Europe 1.
Et comme un retour de boomerang, la loi anti-casseurs a été en partie invalidée hier soir par le Conseil constitutionnel.
Oui, l'article phare qui prévoyait la possibilité pour le préfet d'interdire à toute personne présentant une menace à l'ordre public de manifester, de quoi gêner jusqu'au plus haut sommet de l'État, Adrien Beck, en particulier du côté de Matignon.
C'est pas un succès, mais de toute façon, c'est comme ça. Sans louvoyer dans l'entourage d'Édouard Philippe, on reconnaît qu'on se serait bien passé d'une telle décision du Conseil constitutionnel, car c'est le Premier ministre lui-même qui avait annoncé, puis porté la loi anti-casseurs aux côtés de Christophe Castaner, avec cette mesure phare, l'interdiction administrative de manifester. Signal pour la droite, mais texte controversé jusque dans la majorité. Une cinquantaine de députés marcheurs avaient même préféré s'abstenir. Début de fracture. Alors cette décision, c'est un retour à la raison, se félicite l'un d'eux. Au sein de l'exécutif, les plus fidèles tentent tout de même de banaliser. On s'y attendait, assure un ministre. C'est pour ça que le président a préféré prendre les devants en saisissant lui-même le Conseil constitutionnel. Manière pour Emmanuel Macron d'échapper à un désaveu. Un député observe, une fois de plus, Édouard Philippe a eu tort de s'entêter.
Adrien Beck et les 8 autres articles de la loi ont été validés. En tout cas, les Gilets jaunes ont bien l'intention de manifester pour la 21e fois demain. Un rassemblement autorisé partira de la République à Paris, direction la Défense. Il s'agit officiellement d'alerter sur l'évasion fiscale. Les Champs-Élysées seront interdits de manifestation une fois encore. D'autres appels sont lancés notamment à Rouen et Dijon, mais aussi à Marseille, Nantes, Bordeaux ou encore Strasbourg. Quant à Emmanuel Macron, il a bouclé son grand débat hier en Corse. Discussion avec les 160 maires qui avaient répondu présents et bras de fer avec les nationalistes. Le chef de l'État a critiqué leur posture. Les Corses méritent mieux que des guerres de tranchées, a dit le président. Mais il a aussi déploré l'absence de regret sur l'assassinat du préfet Erignac.
Ceux qui veulent aujourd'hui défendre l'identité corse doivent aussi faire ce travail mémoriel et savoir dire les choses. Et je pense que tant que cette part d'histoire, certains n'auront pas le courage de dire « c'est une plaie, notre cicatrice ». Et la souffrance de la famille Erignac est aussi la nôtre. Ils feront bégayer l'histoire. Je vous le dis avec beaucoup de franchise. Parce que tant qu'on ne sera pas clair sur la condamnation des crimes, on ne pourra pas me dire « attention, ne réveillons pas la violence ». Vous l'avez très bien dit, l'avenir de la Corse est dans l'ouverture, pas dans le repli.
Emmanuel Macron, micro Europe 1 de Frédéric Michel, déclaration qui n'a pas été du goût de Jean-Guy Talamoni. Emmanuel Macron s'est laissé emporter par les mots, sinon ce serait extrêmement grave, a-t-il dit. Ça voudrait dire que les Corses doivent expier perpétuellement la mort du préfet Erignac. Dans la Creuse, 16 élèves d'une école primaire de la Souterraine ont été hospitalisés hier après des vomissements et des maux de tête, vraisemblablement une intoxication alimentaire. Tous ont pu rentrer chez eux dans la journée. Et puis, intoxication alimentaire confirmée après la mort des 5 résidents d'une maison de retraite près de Toulouse. L'enquête n'a pas encore permis d'identifier la bactérie. Au total, 13 plaintes ont été déposées par les familles.
Europe 1.
Nous sommes dans une matinale spéciale et dans 10 minutes, nous irons au SAMU du CHU de Lyon retrouver Nico Saliagas. Puis ensuite, nous retournerons dans cet établissement à 7h45 aux urgences. Et nous, ici à Paris avec Hélène Zélani, nous suivrons la fin du procès de Bernard Tapie et le coup d'envoi du 25e site d'action. C'est dans un instant.
Et il est 7h07, votre matinale avec Pierre de Villeneuve à Paris.
La suite du journal avec Hélène Zélani, le procès de Bernard Tapie pour escroquerie aura duré 4 semaines, il a pris fin hier.
Oui, avec la plaidoirie de la défense qui a dénoncé le vide sidéral de l'accusation. Pour l'avocat de Bernard Tapie, le dossier est vide sur l'escroquerie et le fait qu'un jugement civil les condamnait à rendre l'argent ne doit pas influencer le tribunal, Maître Temim.
Je pense avoir démontré au tribunal qu'il n'y avait strictement aucune escroquerie, aucune infraction pénale, que cette affaire n'est absolument pas la route, qu'elle avait tout juste pu contribuer à nourrir une procédure en révision qui avait conduit à la rétractation de l'arbitrage, mais qu'aujourd'hui, Bernard Tapie devait être relaxé, comme d'ailleurs tous les prévenus.
Maître Temim au micro Europe 1 de Chloé Triomphe. Le parquet a requis 5 ans de prison ferme, décision du tribunal correctionnel le 9 juillet. Le ciel continue à s'assombrir pour Carlos Ghosn. Le tribunal de Tokyo autorise son maintien en garde à vue jusqu'au 14 avril pour de nouveaux soupçons de malversation financière. Ce qui veut dire que de fait, la conférence de presse de l'ex-PDG de Renault-Nissan prévue le 11 est annulée.
Ce soir, c'est le coup d'envoi du SIDAction, 25e édition.
Oui, 3 jours de mobilisation pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre le SIDA. C'est d'autant plus nécessaire qu'on recense encore près de 6000 nouvelles infections chaque année en France. Un sondage IFOP auprès des 15-24 ans pointe le manque d'informations sur la maladie chez les jeunes. Presque un quart s'estime mal informé. Constat sur le terrain avec Jean-Jacques Herry.
Le responsable de ce manque d'information, il est tout trouvé selon les jeunes générations. Le système scolaire français, pas assez efficace en matière de prévention.
En quatrième, l'éducation sexuelle, franchement, c'était vraiment minime. On parle pas assez de certaines choses. Par exemple, j'ai plein d'amis qui étaient pas au courant qu'on pouvait attraper des maladies sexuellement transmissibles par la fellation. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu ça.
Certains amis peuvent avoir des questions comme est-ce que ça se transmet par le baiser, par le sang, tout ça. Enfin, il y a plein de questions en fait.
Bonne nouvelle cependant, les pratiques à risque diminuent, moins 6 points par rapport à l'an dernier. L'amour sans préservatif, a priori, c'est non pour tout le monde.
Hors de question. C'est pas parce que c'est pas pratique que c'est une excuse quoi. Les plus jeunes font moins attention.
Pour s'en apercevoir, il faut creuser un peu parce que c'est toujours la même chose. D'un point de vue personnel, chacun se dit extrêmement prudent. En revanche, tout le monde a soit un ami, soit une connaissance beaucoup moins regardante.
Des fois, il peut mettre des préservatifs, des fois, il en met pas. Après, il fait des tests en fait pour voir s'il a quelque chose ou pas. Voilà, on sait que c'est pas très bien de faire ça. Même moi, des fois, je le décourage.
Ce point précis se traduit par la statistique la plus alarmante. La moitié des 15-17 ans déclarent ne pas avoir utilisé de préservatif car ils n'en avaient tout simplement pas à disposition.
Jean-Jacques Herrier, pour faire un don, le 110 par téléphone, un SMS avec le mot don au 92-110 ou encore le site internet sidaction.org.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani. Votre matinale spéciale continue en direct de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon où l'on part retrouver Nikos Aliagas.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h10, la matinale d'Europe 1 continue et c'est l'heure comme chaque jour, Nikos, de retrouver Martin Fenot sur le terrain.
Il n'est pas très loin, il est avec moi à l'hôpital. Bonjour Martin Fenot, vous êtes dans quel service exactement? Parce que je ne vous vois pas devant moi.
Alors bonjour Nico, alors effectivement je suis pas très loin, je me trouve dans la cour des services mobiles d'urgence, d'où partent notamment les ambulances, parfois sirènes hurlantes, il y en a une qui vient de partir il y a quelques minutes. Je suis ici parce qu'au CHU de Lyon, les soignants utilisent une technique très particulière. Alors ce n'est pas un médicament, ça fait plutôt appel à votre esprit, il s'agit de l'hypnose, ça se développe partout. Dans l'hôpital, à la maternité, dans les salles d'opération et dernièrement ici, au SAMU. Ça sert à gérer le stress d'un patient, sa douleur. On va prendre l'exemple tout simple de Rosalie, 2 ans et demi, hypnotisée alors qu'elle venait de se brûler au bras avec une théière. Elle hurlait quand l'équipe du SAMU est arrivée. Écoutez, c'est sa mère qui raconte la suite.
Je n'arrivais pas du tout à la calmer, elle était en furie quoi. Ils l'ont changé d'espace, ils l'ont mis sur le canapé, ils m'ont demandé de me rapprocher et puis ils se sont mis à tout expliquer, à beaucoup beaucoup lui parler avec des petites lumières qui s'allumaient. Je l'ai vue vraiment se changer, elle s'est mise à répondre et à jouer avec les soignants alors qu'ils n'avaient encore rien fait pour soulager sa douleur. C'était une ambiance de jeu complètement en décalage avec la situation de crise qui était 5 minutes avant quoi. Puis je voyais surtout qu'elle avait plus mal quoi, alors que c'était grave.
Ouais, c'était grave mais ça paraît très mieux quand même Martin. Donc, comment ça fonctionne? Essayez d'être un peu plus précis qu'on comprenne.
Alors en fait, vous êtes concentré sur votre douleur et eux, les soignants, ils vont tout faire pour perturber ça avec le son de leur voix, avec des termes positifs, en répétant des phrases incohérentes. C'est tellement efficace, Nikos, qu'aujourd'hui, ils le pratiquent même par téléphone. Écoutez, un médecin des urgences qui hypnotise une femme en pleine crise de panique, elle est dans la rue et elle respire mal.
Je respire mal.
Elle est dans quelle main, votre téléphone?
La main droite.
Main droite. Donc vous allez simplement essayer de rapprocher votre main gauche de votre main droite. Et vous allez sentir au fur et à mesure une sensation de bien-être. Vous pouvez fermer les yeux tranquillement. Et là, vous respirez tranquillement, amplement. Est-ce que vous sentez que votre respiration s'est améliorée?
C'est de l'hypnose ou quoi?
Ça y ressemble.
Oui, je me sens mieux là. Ouais.
Voilà.
Vous voyez, ça dure quelques minutes à peine. Et voilà, et ça évite parfois de mobiliser une ambulance. 45 personnes ici au SAMU sont formées à l'hypnose. Au moins 15 de plus le seront avant la fin de l'année. Alors pour le patient, vous l'avez compris, c'est moins douloureux. Et pour le praticien, ça permet, dans le calme, de poser un meilleur diagnostic.
Magnifique, l'hypnose donc utilisée dès la prise en charge au centre d'appel du SAMU de Lyon. Alors justement, j'y suis, Martin Fenot. Combien d'appels par jour? Comment les patients sont-ils orientés? Qui décide des interventions? On voit ça dans 5 minutes au centre de réception et régulation des appels du SAMU. Je suis entouré de spécialistes. Ils vous attendent. On est en direct depuis Lyon ce matin, depuis le CHU Édouard Herriot sur Europe 1.
Merci Nikos, on vous retrouve dans quelques minutes en direct du CHU Édouard Herriot à Lyon. Votre matinale spéciale continue, mais juste avant, c'est l'édito éco signé Nicolas Barré. Dans un instant. Et dans un instant, Nicolas Barré, on parle de quoi?
On parle d'impôts. Voilà.
Vous allez voir. C'est un teasing.
Il y
a beaucoup de suspense.
Comment on va corriger l'impôt sur le revenu?
A tout de suite.
Belle matinée à tous sur Europe 1, il est 7h14. Les 7h16, les principaux titres à retenir ce matin, Pierre Devineau.
Les ennuis sont loin d'être terminés pour Carlos Ghosn. La justice japonaise vient d'autoriser la prolongation de sa garde à vue jusqu'au 14 avril prochain. Arrêté hier matin, il est à nouveau en prison pour des soupçons de malversation financière. Verdict aujourd'hui dans le procès Air Cocaïne. Ce matin, les 9 accusés, dont les 2 pilotes Bruno Odos et Pascal Fauré, auront une dernière fois la parole. L'Élysée prend acte de la décision du Conseil constitutionnel. Il a censuré l'article phare de la loi anti-casseurs, l'interdiction administrative de manifester.
Europe 1. On passe à l'économie, Pierre, avec l'édito éco, avec la Banque Rhône-Alpes. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, Banque Rhône-Alpes, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Et Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos, nous a mis beaucoup de suspense. Nicolas, c'est une manie française, touchée à l'impôt sur le revenu. Mais cette fois-ci, si Emmanuel Macron veut le faire, c'est pour corriger ce qu'avait fait François Hollande.
Oui, car décidément, en la matière, François Hollande aura eu tout faux. Après les hausses d'impôts massives du début de son quinquennat, source d'un ras-le-bol fiscal qui n'a pas disparu, il avait voulu corriger le tir en sortant de l'impôt sur le revenu 3 millions de ménages. Avec deux énormes effets pervers. Un, le ras-le-bol fiscal de ceux qui payent encore l'impôt sur le revenu, c'est accru car ils sont moins nombreux, à peine plus de 4 Français sur 10 et ils payent plus. Et puis deux, en sortant les bas revenus de l'impôt, il a alourdi la douloureuse dès le bas de l'échelle pour ceux qui le payent. Et c'est comme ça qu'à force de bidouillage, on arrive à cette situation ubuesque où un contribuable imposé à la première tranche de l'impôt sur le revenu peut se retrouver avec un taux marginal de 30%. Pour 1 euro gagné en plus, il verse 30 centimes à l'État.
Et c'est ça que veut corriger la majorité.
Exactement.
Le bidouillage.
C'est cette brutalité dans l'entrée... dans l'entrée dans l'impôt qu'elle veut corriger, oui. Alors, c'est bien de vouloir corriger, mais quand même à deux conditions. Un, il ne faut pas ajouter de la complexité, ce serait un comble. Et puis deux, ne pas financer cela en alourdissant les impôts des autres, c'est-à-dire des tranches juste au-dessus, par exemple, en rognant sur les niches fiscales. On sait bien que c'est la tentation. Les seules vraies baisses d'impôts, c'est l'évidence, ce sont celles qui sont financées vraiment par des économies.
Merci Nicolas Barré pour l'édito éco.
Nikos Aliagas. Il est 7h18, votre matinale spéciale continue. Retour au CHU Édouard Herriot de Lyon. Où vous vous trouvez, Nikos Aliagas?
Je suis en immersion ce matin avec notre consoeur Mélanie Gomez. Est-ce qu'on peut déjà décrire où nous sommes? Nous sommes au centre de régulation des appels du SAMU.
Oui, avec des postes, il y a des assistants de régulation qui répondent donc au téléphone. Ce sont eux, quand vous appelez le 15, qui vous répondent. Et puis il y a des médecins, des généralistes, des urgentistes qui sont là pour aiguiller aussi le soin derrière.
À mes côtés, docteur Pierre-Yves Guignot, bonjour.
Bonjour Nico.
Vous êtes le directeur du SAMU ici au centre d'appel. Racontez-moi la journée type.
La journée type au centre d'appel, c'est déjà pour nos ARM, nos assistants de régulation médicale, oui, le décrocher de, en moyenne, 1200 appels par jour.
Par jour?
Par jour.
Répondre et écouter à 1200 personnes
1200
par jour.
Appels par jour, à se répartir entre 4 à 5 ARM en front office, à décrocher ces appels. Ça fait aux heures de pointe un appel toutes les 3 minutes en moyenne, à gérer toutes les 3 minutes. Et ce sont des appels d'urgence, au moins ressentis par les patients, avec des gens qui potentiellement peuvent être agressifs. En tout cas, ils sont angoissés, perdus, anxieux. Et donc, c'est un métier particulièrement difficile.
Mélanie Gomez.
Il faut bien comprendre qu'ici, c'est la garde de triage. Tout le monde appelle, d'accord, on reçoit tous les appels, on écoute tout le monde et ensuite on trie.
L'ARM, ces assistants de régulation, ont un rôle essentiel. Hein. Ce n'est pas seulement décrocher au téléphone et dire « Où habitez-vous ? » C'est beaucoup plus précis que ça, docteur.
Oui, absolument. Notre centre 15, au niveau du SAMU, c'est vraiment le centre névralgique. C'est la gare de triage de tous ces appels. Et cette gare de triage, elle est réalisée par nos ARM dans un premier temps. C'est elles ou eux qui vont prendre les adresses, les coordonnées du patient. Ça paraît simple. C'est pas simple quand on appelle et qu'on est angoissé.
Pourquoi ?
Parce que les gens comprennent pas qu'on leur demande des détails, l'étage, le code pour rentrer. C'est l'élément principal s'il y a une urgence
vitale. C'est la première question.
C'est la première question à
poser.
où vous vous trouvez avec des précisions pour qu'on puisse intervenir. Si on doit intervenir, il faut une adresse précise si les gens accrochent, sinon on n'a pas de solution.
L'adresse, c'est souvent un point de crispation, justement. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande leur adresse. Ils veulent que vous veniez tout de suite, hein, c'est
voilà.
ça
Voilà, la demande, elle est venez. Et il faut savoir que le SAMU, les SMUR, nos véhicules d'intervention avec nos équipes de réanimation préhospitalière, n'interviennent que dans en moyenne 5% des cas.
Quand c'est ce point de crispation, ils vous appellent et parfois vous faites insulter très souvent. Même on a assisté à des appels hier.
Alors c'est quand même pas le plus fréquent, mais on se fait, en effet, nos ARM se font insulter. D'où l'intérêt dans la prise en charge de ces ARM d'avoir le maximum de bienveillance, d'empathie avec les patients pour arriver à les calmer, les rassurer dans un premier temps.
Alors ça s'est passé il y a un an, en mai 2018. Vous avez reçu un appel de deux garçons. Ils étaient avec leur grand-père qui venait de faire un malaise cardiaque, ils vous ont appelé, ils étaient paniqués. Et c'est justement l'une de vos ARM, de ces assistantes de régulation, qui a pris l'appel, qui a répondu et qui les a accompagnés. Écoutez.
Vous me dites si la poitrine se soulève régulièrement.
Elle se soulève plus là.
D'accord, on va faire le massage cardiaque, monsieur. Donc vous vous concentrez, vous vous mettez à genoux, vous entrelacez vos mains l'une sur l'autre et avec la paume de la main, vous la placez au milieu de sa poitrine.
Okay.
Ensuite, vous appuyez sur le rythme que je vais vous donner. Vos bras sont tendus.
Oui.
Et vous appuyez. Et 1 et 2. Je veux vous entendre compter, monsieur.
1, 2, 1, 2, 1.
Allez,
deux,
on appuie
un,
fort. Les secours vont arriver. Je sais, c'est difficile, mais il faut continuer. Ça y va de la survie de votre grand-père. Allez-y, continuez. Courage.
1, 2, 1.
Et le grand-père a survécu. Grâce à vous aussi, Brigitte. Vous ne l'aviez jamais entendu, ce document ?
Si, une fois.
Vous, vous faites juste votre métier à ce moment-là, mais vous sauvez aussi des vies ?
Oui, 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 mais enfin, bien sûr qu'on est là.
Et vous le faites plusieurs fois par jour, ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, ça nous arrive, oui.
C'est une immense responsabilité quand on sait que la personne qui est à l'autre bout du fil peut perdre la vie ?
Oui. Mais l'importance aussi, c'est le témoin. Le témoin est capital, en fait, dans cette manœuvre. Parce que s'il n'est pas coopératif et si... En tous les deux, on n'arrive pas à s'entendre. Eh ben, c'est lui qui sauve son grand-père quand même avec mes instructions. Mais c'est quand même lui, il est capital ce garçon.
D'où l'importance de la formation, Mélanie Gomez.
Exactement, mais on est formé donc à ce métier, mais on est formé à une empathie qui est démente. Parce qu'hier, on était là, on vous a vu, on est tombé sur un appel qui était dingue. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'était une belle histoire. Mais hier, pendant 5 minutes, vous vous êtes fait insulter. Clairement, un monsieur qui était là, qui avait sa femme inanimée à côté de lui. Et au lieu de lui expliquer, d'essayer de gérer ce que vous lui expliquez de faire avec sa femme, il passait son temps à vous insulter en fait. C'était ce qu'on a entendu quand même pendant 5 minutes.
Est-ce qu'il avait peur, ou il était alcoolisé, ou il n'était pas dans un état normal ?
Il était dans un stress total, en fait. Ouais, il avait peur, effectivement. Donc après, il part, et puis il faut essayer de le ramener à la réalité.
Mais comment vous encaissez toute la journée, justement, des situations de stress intense, de stress définitif ? Florence ?
Alors, on a une formation pour ça. Hein. On a mis en place une formation qui dure 2 mois maintenant pour les nouveaux arrivants. Et on a y compris un module communication pour effectivement nous apprendre à prendre du recul par rapport aux appels et communiquer, essayer de faire descendre la tension avec le requérant. Mmh.
Docteur Guignot, combien d'appels nécessitent justement un suivi avec une ambulance sur place ?
Seulement, je dirais seulement 5%. Et c'est là tout le travail de la régulation médicale que de faire les tris pour ne pas envoyer des moyens inutiles pour des interventions qui ne le justifieraient pas et pour éviter de surcharger nos urgences qui sont déjà très 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 actives.
Parce qu'il faut bien comprendre que quand on appelle le 15, pour les gens, ils n'osent pas appeler des fois le 15 parce qu'ils se disent on va m'envoyer une ambulance. En fait, l'essentiel des appels du 15, ça ne nécessite pas qu'on envoie le SMUR, les ambulances.
Au jour d'aujourd'hui, le centre 15 est devenu vraiment le nerf de la guerre, le centre névralgique de tous les appels d'urgence médicaux.
On n'appelle jamais pour
rien. On n'appelle pas pour rien. Si vous avez un sentiment d'urgence, que même si c'est une urgence vécue et pas du tout une urgence réelle, vous appelez le 15, on vous donnera des conseils, on vous orientera sans obligatoirement vous envoyer à l'hôpital.
Donc le doute doit bénéficier aux patients ?
Le doute bénéficie aux patients. S'il y a un doute, on enverra des moyens. Et de toute façon, les patients n'ont jamais tort d'appeler le centre 15. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les appels au centre 15 ont été multipliés par 2 en 10 ans. La problématique de la médecine générale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les soins non programmés, est devenue une grosse partie de notre activité, la majeure partie de notre activité.
Les soins non programmés, j'imagine que votre crainte, c'est justement de passer à côté de quelque chose et d'avoir un drame comme ça peut arriver.
comme ça peut arriver, malheureusement, évidemment, on peut passer à côté d'un patient, mais de toute façon, le doute va toujours bénéficier au patient. Et pour que ce soit efficace, nos ARM systématiquement font réguler les médecins et il y a toujours une régulation médicale pour tous les appels de santé.
Merci docteur Pierre-Yves Guenion, merci de nous avoir accueillis ici au CHU de Lyon, centre d'appel. Vous êtes le directeur du SAMU et je rappelle juste que le SAMU reçoit plus de la moitié des appels d'urgence en France. Ça signifie 30 millions d'appels. À vous Paris, Europe 1.
Et vous pouvez réagir par téléphone 50 centimes la minute au 39-21 ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Dans deux minutes, le journal de Céline Kallmann, mais on va voir la météo avec Laurent Cabrol.
Il est 7h26. Belle matinée sur Europe 1, je vais y arriver. Et on retrouve Laurent Cabrol tout de suite pour la météo, Pierre.
Laurent. Et des températures ce matin, chers amis, qui ne doivent pas vous faire peur. Il fait entre moins 3 et plus 6 degrés. Et cependant, dans la journée, nous atteindrons 13 à 18. Ça sera comme une fusée. Là, ça va partir, ça va monter le thermomètre. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Si vous habitez la Lorraine, l'Alsace, la Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes et la Provence-Côte d'Azur, ce sera même du grand beau. À peine voilé, c'est sympa comme coin. Donc, sur Lyon aussi. Sur le nord, le Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, la région parisienne, le centre, la Bourgogne et le Massif central. Un ciel parfois couvert mais lumineux. Sur Paris, il ne pleuvra pas, vous aurez de la lumière. Sur la Bretagne, la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Béarn, là ce sont des pluies qui arriveront progressivement. Enfin, sur le Midi-Pyrénées, la vallée de la Garonne et le Languedoc-Roussillon, ce sera souvent menaçant. D'un mot, je voulais vous dire que le mois d'avril tel que je l'envisage sera un mois d'avril qui ressemblera à un mois de mars, avec de la fraîcheur, des giboulées, pas de grand beau à l'horizon, mais pas catastrophique ce mois d'avril. Et entre deux giboulées, il y aura bien sûr des éclaircies, donc ce sera toujours changeant. Et de bonnes pluies dans le midi, ça c'est bon pour l'arrosage nécessaire. Un espoir quand même dans ces prévisions, qui n'appartiennent qu'à moi, je le rappelle. Un espoir, c'est que de voir le temps changer à partir du 20.
Voilà. Merci Laurent Cabrol.
À suivre Pierre de Villeneuve.
À 7h40, Jean-Michel Apathy qui nous parlera du clap de fin pour le grand débat. Maintenant, dit-il, il faut conclure et ce ne sera pas le plus simple. 7h43, Axel de Tarly, les prix des logements qui flambent encore, toujours à Paris comme ailleurs. On parle de l'encadrement des loyers. Puis 7h45, votre matinale spéciale continue en direct de l'hôpital Édouard Herriot avec Nico Saliagas en immersion aux urgences. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
En ce vendredi 5 avril, il est 7h30.
7h, 9h. 2 heures d'info sur Europe 1.
7h30, le journal Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Une claque pour le gouvernement juste avant la 21e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Le Conseil constitutionnel a décidé de censurer l'article phare de la loi anti-casseurs. L'article permettait au préfet d'interdire de manière préventive les manifestations aux personnes présentant une menace grave pour l'ordre public. En clair, les sages estiment que les critères prévus par la loi n'étaient pas assez précis. L'Élysée a dit prendre acte de cette décision. Écoutez la réaction du député La République En Marche, Hugues Ranson, qui s'est abstenu sur le texte, comme une cinquantaine de ses collègues.
Le seul enseignement qu'on peut tirer de cette séquence, c'est que la précipitation n'est jamais bonne conseillère. Nous avions des doutes. Le Conseil constitutionnel dit l'état du droit aujourd'hui en France. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de victoire d'un côté ou de défaite de l'autre. Il y a certainement à travailler pour améliorer toujours les dispositifs de maintien de l'ordre dans ce pays face à cette nouvelle menace, mais il faut le faire dans le respect de la tradition constitutionnelle française de respect et de garantie des libertés publiques.
Hugues Ranson, joint par Adrien Beck, les deux autres articles ont été validés, celui qui autorise les fouilles de sacs ou de véhicules et celui qui punit le fait de cacher le visage. Emmanuel Macron a bouclé hier son grand débat avec des maires corses. 160 élus avaient répondu présents sur les 360 conviés. Avec cette ultime réunion, le chef de l'État totalise 92 heures de discussion depuis le début du grand débat. Il devrait annoncer les premières mesures dans une dizaine de jours. Nicolas Sarkozy fait son entrée au conseil d'administration de Barrière, numéro 1 des casinos français. L'ancien président siège au comité stratégique, c'est ce que révèle le président du groupe dans une interview au Figaro, Nicolas Sarkozy, qui fait aussi partie du conseil d'administration des hôtels Accor. Carlos Ghosn en garde à vue jusqu'au 14 avril. Le parquet de Tokyo avait déposé une requête en ce sens qui a été approuvée au lendemain de la nouvelle arrestation de l'ancien PDG de Renault-Nissan.
Retour sur le drame de l'EHPAD de la Chaîne. Chêneraie, près de Toulouse maintenant, l'hypothèse d'une intoxication alimentaire confirmée hier.
La bactérie qui serait en cause n'a pas encore été identifiée. 5 résidents sont morts. Le procureur de Toulouse n'a cependant pas donné plus de précisions. Au total, 13 plaintes ont été déposées, dont 10 pour homicide involontaire. Écoutez le procureur Dominique Alzéari avec Benjamin Péter.
Nous sommes face à des personnes âgées, dépendantes, très vulnérables et qui ont manifestement subi un choc toxique. Deux d'entre elles sont décédées à la suite de troubles cardio-respiratoires qui sont compatibles avec une intoxication alimentaire. Les premiers résultats partiels permettent de conclure à la présence d'un phénomène de toxi-infection alimentaire du fait de la présence qui est objectivée de bactéries dans les différents ingrédients qui ont pu être servis.
Propos recueillis par Benjamin Péter pour Europe 1. 16 élèves d'une école primaire de la Souterraine dans la Creuse, hospitalisés hier pendant plusieurs heures. Ils ont été pris de maux de ventre et de tête après le déjeuner. Ils sont finalement tous rentrés chez eux en fin de journée. Des analyses sont en cours pour déterminer la cause des symptômes. 31e journée de Ligue 1. Ce soir, Marseille se déplace à Bordeaux. Et puis hier soir, les joueuses de l'équipe de France en football toujours ont battu le Japon 3-1 en match amical.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, l'autre Céline d'Acosta, oui, on lit moi. Vos réactions sur les réseaux sociaux d'Europe 1.
Oui, sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Fredo qui nous remercie de mettre en valeur le magnifique travail du SAMU et des urgences, souvent dans des conditions difficiles. Continuez à nous envoyer vos messages Twitter, hashtag Europe 1.
Europe 1.
C'est l'heure du duo Apathy-Tarlé. Bonjour Jean-Michel Apathy. De quoi parle-t-on ?
Le grand débat est terminé. Ouf, enfin. Et on va en tirer les deux ou trois leçons générales qui s'imposent.
Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour. Le gouvernement relance l'encadrement des loyers et il doit entrer en vigueur cet encadrement des loyers cet été à Paris.
Apathy-Tarlé dans un instant avant de retrouver Nikos Aliagas en immersion à Lyon. A tout de suite.
Et les 7h35, Pierre de Villeneuve, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Le grand débat est terminé. Le président de la République a tenu hier en Corse la dernière réunion de cette initiative sans précédent. Et maintenant, Jean-Michel, on attend les conclusions.
Eh oui, alors d'abord, ça fait du bien quand ça s'arrête, c'est sûr. Et les conclusions, on va voir dans quelques semaines ce que ça va être. Mais on peut déjà en tirer deux ou trois leçons générales. D'abord, c'est un formidable exercice de démocratie, tout le monde l'a dit. Chaque citoyen a été à la réunion qu'il a choisie, il a dit ce qu'il a voulu. 1,5 million de contributions, c'est tout de même très important, donc c'est démocratique. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quand même, parce que la fin du grand débat, elle ne sera pas démocratique, elle sera, au sens strict du terme, autocratique. Un homme, tout seul, Emmanuel Macron, le président de la République, c'est institutionnel, c'est légitime, d'accord, mais quand même, un homme tout seul va dire ça oui, ça non. Donc un débat démocratique se termine de manière autocratique, alors ça, si vous voulez, on ne le voit pas tous les jours. La deuxième leçon, beaucoup de choses ont été dites, mais rien de neuf. Rien de génial, rien de bouleversant. Tous les problèmes qui ont été évoqués, on les connaît depuis longtemps. Et c'est même parce qu'on les connaît depuis longtemps qu'on ne les a pas résolus, qu'on n'y a pas touché, qu'on ne sait pas comment faire. Ça, ça doit nous faire réfléchir sur notre culture politique. Nous pensons en général, en France, c'est assez spécifique à la France, que la politique c'est génial, que c'est miraculeux. Vous vous souvenez de la campagne de Jacques Chirac, je vais guérir les écrouelles, enfin c'était ça en gros son mot d'ordre. Ça ne marche jamais comme ça. La politique c'est de l'humilité, de la ténacité, de la lucidité, des choses qui ne sont absolument pas dans notre culture politique. Et donc, ce qu'on a attendu du grand débat, c'est la solution miraculeuse, il n'y en aura pas. C'est aussi pour ça que le grand débat sera presque inévitablement déceptif. Et la troisième leçon générale, c'est quand même la contradiction dans laquelle on est. Parce que ce qui ressort de manière dominante de ce grand débat, c'est on veut davantage de services publics pour les territoires ruraux, pour les périphéries. Oui, plus de services publics, mais on veut moins d'impôts. On veut plus de dépenses publiques et moins de recettes publiques. Ça porte un nom en géométrie, dessiner un cercle carré. Et celui qui arrive, clac, il a décroché la queue du Mickey. C'est pas sûr qu'on y arrive cette fois. Hein.
Merci Jean-Michel Apathy.
L'économie à présent, Pierre, avec la Caisse d'épargne qui vous présente le Zoom Eco. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
L'économie avec Axel de Tarmé, que fait face à l'insoluble problème du logement dans les grandes villes, on reparle de l'encadrement des loyers.
Voilà, et le décret sera même publié ces jours-ci. Alors à Paris, on annonce effectivement l'encadrement des loyers dès l'été prochain. Une trentaine de villes également sont intéressées. Lille, Grenoble. Alors je rappelle le principe de l'encadrement des loyers. Interdiction de pratiquer des loyers supérieurs de 20% à la moyenne du quartier.
Mais est-ce que ça marche ?
Alors, les professionnels de l'immobilier disent que non, que les propriétaires vont même du coup retirer leur logement de la location et les mettre sur Airbnb. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que le système actuel du marché libre ne marche pas non plus. Écoutez, regardez ce sondage IFOP. 71% des Parisiens sont mécontents de l'action de la mairie de Paris en matière de logement. Il faut dire qu'en matière de logement, c'est toujours plus petit et toujours plus cher. Selon le site Loc Service, le logement moyen à la location à Paris maintenant n'est plus que de 31 mètres carrés pour un loyer de 1 080 €. Donc vous voyez, c'est petit et cher. Du coup, d'ailleurs, les familles s'en vont. Hein. Paris perd 12 000 habitants chaque année et les écoles ferment.
C'est un sujet qui ne concerne que Paris ?
Non, cette flambée de l'immobilier est malheureusement un mal qui ronge toutes les grandes villes en France et à l'étranger. Enquête du Wall Street Journal, dans les 30 plus grandes villes du monde, les prix augmentent dans ces 30 grandes capitales, 3 fois plus vite que les salaires. Partout, les habitants sont mécontents. Et ils demandent aussi qu'on agisse, y compris avec de la régulation, y compris dans les pays libéraux. Regardez à Londres, en Californie, les habitants réclament là aussi le contrôle des loyers. En Nouvelle-Zélande, le gouvernement vient même carrément d'interdire aux étrangers d'acheter des logements. Vous voyez, cette flambée de l'immobilier est un problème mondial. Pourquoi ? Eh bien parce que l'activité avec Internet se concentre uniquement dans les grandes villes, mais malheureusement, ces grandes villes ne peuvent pas accueillir tout le monde.
Merci, c'était Axel de Tarlet.
C'était le Zoom Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Europe 1.
Il est 7h39, votre matinale spéciale en direct de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon continue.
Oui, on part retrouver dans un instant Nico Saliagas en immersion au cœur des urgences pour suivre la prise en charge des patients. A tout de suite.
Belle matinée sur Europe 1, il est 7h40. Il est 7h41, les principaux titres à retenir ce matin, Pierre Devineau.
Au Japon, le tribunal autorise la prolongation de la garde à vue de Carlos Ghosn jusqu'au 14 avril. L'ancien patron de Renault, Nissan, a été interpellé hier, 30 jours après sa libération sous caution. La loi anti-casseurs, l'Elysée a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré l'article le plus critiqué, mesure qui aurait permis au préfet d'interdire à des individus représentant une menace d'une particulière gravité de manifester pendant un mois. Les suites de l'enquête sur la mort de 5 résidents d'une maison de retraite au Lerme, près de Toulouse. C'est une toxi-infection alimentaire à l'origine des décès. Le procureur de Toulouse n'a apporté aucune précision sur les bactéries incriminées. L'édition 2019 du Sélection débute aujourd'hui pour 3 jours. 25 ans après le début de la maladie, les traitements ont progressé, mais l'association alerte sur la banalisation de l'épidémie. Enfin, la tendance météo, du soleil dans l'est, de la pluie sur la façade atlantique, avec même quelques orages. Au pied des Pyrénées et dans le golfe du Lion, température prévue de 11 à 19 degrés.
Météo complète avec Europe 1. Carole, juste avant 8 heures. Nico Saliagas, matinale spéciale ce matin sur Europe 1 en direct de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon.
Nikos, vous êtes sur place. Tout à l'heure, vous étiez au centre d'appel du SAMU et à présent, vous êtes en immersion au cœur du service des urgences.
Oui Pierre, nous sommes aux urgences et nous continuons notre périple. Nous sommes en immersion avec Mélanie Gomez. Il se passe beaucoup de choses, hein, même pendant la nuit. Bonjour docteur Karim Tazaroult, c'est vous le patron ici, le chef de ce service.
Le chef de service, oui.
On a l'image d'un flux continu de patients qui débarquent 24 heures sur 24. Là, il est un peu tôt. Ça va commencer à bouger à partir de quelle heure ?
Alors, c'est exactement ça. D'abord, j'ai un flux continu, c'est vrai, ouvert H24, ce qui est un sujet majeur hein, aux urgences. Vous êtes ouvert H24 avec tout un hôpital qui est derrière. Spécifiquement en termes d'activité, les flux sont entre 10h et 22h.
Ici, c'est le cœur du réacteur. Oui. Ici, n'importe qui peut venir à n'importe quelle heure. Il se présente parce qu'il est en urgence vitale ou pas seulement ?
Alors, là, pas seulement. La force des urgences, c'est de proposer à tous nos citoyens, H24, une solution à un problème de santé. Et je tiens à tenir ce message positif parce que, outre les dysfonctions qu'on médiatise beaucoup, fondamentalement, quand vous avez un problème de santé, urgent ou pas, et c'est une des difficulté pour nous, c'est que vous avez un endroit où il y a de la lumière, vous pouvez venir. Un service d'urgence, c'est rien sans son hôpital. Donc en fait, c'est un hôpital qui se consacre à l'urgence. Et ça aussi, j'insiste, un service d'urgence, c'est pas isolé au milieu de nulle part.
C'est pas seulement l'endroit où on attend pendant des heures.
Bien sûr que non. En fait, et de facto, c'est un baromètre ou un thermomètre de toutes les dysfonctions de notre système de santé.
Et de la société française
et
aussi.
Et de la société. Et on fait face à deux défis d'adaptation.
Mélanie Gomez.
Oui, on entend souvent que les urgences sont engorgées, qu'il y a trop de monde. Est-ce qu'on vient pour rien aux urgences ? On sera renvoyé si on vient pour un petit bobo ?
Bien sûr que non. Alors, on voit de manière évidente que, de facto, depuis 30 ans, il n'y a pas que de la médecine d'urgence qui vient au sein des services d'urgence.
Vous voyez quoi comme mot en particulier ?
La moitié de nos patients relève de la médecine aiguë. Vous avez une douleur intense qui peut entraîner un risque vital ou fonctionnel, vous venez aux urgences, c'est normal. L'autre moitié, c'est du soin non programmé. Et là-dedans, vous avez une...
C'est quoi le soin non programmé ?
Typiquement, ça va de « j'ai mal au dos, ça n'est pas une pathologie urgente, j'en suis sûr, mais j'ai mal au dos, j'ai besoin d'être pris en charge immédiatement ». Ça nous ramène aux problématiques d'instantanéité de cette société. Ça pourrait être fait en ville. Ah, mon fils a de la fièvre, je ne sais pas quoi faire et je viens. Donc dans nos services, la moitié des patients pourraient avoir une réponse adaptée à leurs besoins dans une structure autre qu'un service d'urgence.
Avec un généraliste.
Est-ce que vous avez des violences aussi ?
Oui, bien sûr, on est le reflet de la société. Hein.
Comment vous le gérez ?
Alors, vous avez deux types de violences. Hein. La violence organisée en bande qui veut s'en prendre spécifiquement aux équipes est très rare. La plupart du temps, nous avons de l'agressivité qui est liée à une incompréhension de ce qu'est un service d'urgence. Au service d'urgence, nous accueillons tout le monde, personne n'est renvoyé. Mais on passe tous par une infirmière d'organisatrice de l'accueil qui est une consultation spécialisée et qui va après vous filiariser. Dit autrement, quand vous avez un problème aigu, vous rentrez dans la filière hôpital. Quand vous relevez d'une consultation non programmée, on vous dira d'aller voir votre médecin généraliste. On vous a rassuré parce qu'on a fait un acte intellectuel, mais on vous demande d'aller voir le médecin généraliste ou la maison médicale de garde. Ce qui ne correspond pas forcément à l'attente des gens qui voudraient être pris dans l'heure. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est...
Ils veulent une radio, qui veulent un médicament, qui veulent quelque chose tout de suite.
Exactement. Voilà. Donc là, l'agressivité vient souvent de ça. On a un problème d'information préalable. En fait, si je vais jusqu'au bout, on a probablement un problème d'éducation sanitaire de notre population.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
On a montré par les écoles qu'on pouvait apprendre aux enfants les gestes de secours et que ça marchait. On a probablement maintenant à apprendre à nos adolescents ce qu'est la ressource sanitaire. Dit autrement, nos grands-mères, quand on avait de la fièvre il y a 30 ans, étaient capables de prendre quelques mesures et d'attendre 24-48 heures. Exactement. Là maintenant, la moindre fièvre sans critère de gravité ni même angoisse nécessite une consultation aux urgences.
Et parfois parce qu'ils ne trouvent pas de médecin en ville aussi.
Écoutez, on a un problème d'adaptation de notre système de santé. Je ne dirais pas qu'on manque de généralistes, je dirais qu'il va falloir repenser le modèle avec le non programmé et une population qui vieillit, qui a besoin de prévention et qui est isolée. Donc plus que demander plus de médecins, ce qu'il faut, c'est repenser complètement le modèle et réattribuer à chacun des missions.
Alors à côté de la salle d'attente, je la vois, elle vient d'arriver, la directrice de l'hôpital, Valérie Durand-Roche, bonjour.
Bonjour.
À quel moment vous êtes sous tension ? Il y a un terme très spécifique, je crois, pendant les épidémies, vous l'étiez encore il y a quelques semaines ?
Tout à fait. L'hôpital sous tension, c'est à un moment donné une inadéquation entre les venues aux urgences, les moyens qui sont présents aux urgences et le nombre de lits d'aval. Donc c'est ces moments-là qui sont en général particuliers sur les périodes de grippe, d'accord, sur des périodes parfois de canicule aussi, mais qui correspondent à des périodes d'épidémie en général.
Et par exemple, là, on sort d'une épidémie de grippe.
On sort d'une.
Vous l'avez géré comment ?
Eh bien, on a un plan hôpital sous tension qui est en général déployé dans les hôpitaux français, qui met en œuvre des réponses graduées pour faire face justement à ces afflux de patients qui viennent soit avec un besoin d'hospitalisation, soit avec une simple consultation.
Mais vous isolez, vous mettez des quarantaines, comment ça se passe ?
Non, pas tout à fait, c'est plutôt répondre au bon moment avec des renforts de moyens.
Des renforts, gens qui sont en vacances.
Alors on a des processus de rappel, mais aussi on essaye de prévoir avec un plan en amont des périodes où on va avoir plus d'effectifs, que l'on va aussi payer en plus, et aussi d'avoir un volume de lits d'aval supérieure par rapport à notre fonctionnement normal.
Est-ce que vous préparez aussi à des scénarios d'attentats, par exemple ?
Alors ça, c'est autre chose. Oui. C'est ce qu'on appelle les plans blancs, qui sont les dispositifs en parallèle de ce qui est déclenché au niveau de la préfecture, d'accord, qui sont le moyen en intra-hospitalier de répondre à la demande d'un afflux de victimes.
En très peu de temps ?
En très peu de temps, puisque nous devons, selon les objectifs, répondre en moins de 30 minutes pour accueillir les urgences qu'on appelle absolues et aussi accueillir les urgences relatives qui doivent être aussi triées à l'entrée de l'hôpital après un pré-tri en extra-hospitalier qui est effectué par le SAMU ou les pompiers dans le cadre des dispositifs présents.
Docteur, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos collaboratrices ou vos collaborateurs ? Je sais pas, on sort quasiment d'une vacation de nuit. Ça se termine à quelle heure ? Vers 8 heures, là, ils vont rentrer.
Alors,
chez eux.
Pour les médecins, la relève va être à 8 heures, avec la transmission de la garde, et donc un staff entre les médecins qui quittent la garde et les médecins qui arrivent.
Où sommes-nous, là, précisément ?
Là, vous êtes dans l'unité d'hospitalisation de courte durée.
Ceux 20 qui sont là, ils ont travaillé 12 heures au moins.
Exactement.
Alors, je vois des jeunes gens qui travaillent visiblement à côté de vous, professeur. Alors, bonjour, vous appelez comment ?
Cyril Fontaine.
Vous avez ?
28 ans.
Vous êtes docteur ?
Oui.
Je vois que vous avez un stéthoscope autour du cou. Vous venez d'arriver ou vous terminez votre vacation ?
Non, je finis.
Vous étiez là depuis quelle heure ?
18h30 hier.
Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ?
Eh bien, plein de patients sont arrivés, dont une des dernières qui a 92 ans, et en fait, voilà, qui est arrivée sur un mode de vomissement, une détresse respiratoire. Bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on a pu la stabiliser. Mais voilà, toute la nuit, ça a été un petit peu comme ça. Des doutes diagnostiques initialement, et puis avec...
Combien de patients vous avez vu cette nuit et de tout type, j'imagine ?
Honnêtement, je ne sais pas trop. En général, c'est plutôt entre plutôt une quinzaine, 20, ça dépend, des fois jusqu'à 30.
C'est toujours l'imprévu, en fait.
Oui, exactement.
Dans votre métier, vous ne pouvez absolument rien prévoir.
Non.
Uniquement l'horaire, en fait.
L'horaire de début,
encore,
de fin. Et,
pas de fin, et celui du début, oui, sûr. Et ça peut traîner un peu plus après.
Ça peut traîner un peu plus selon ce qu'il nous reste à faire et selon ce qu'on veut finir, oui.
Vous êtes très jeune, pourquoi vous avez choisi de faire ce métier ?
Eh ben pour la diversité et ouais, pour un peu pour l'imprévu aussi.
Combien d'années d'études ?
Ben là, 11. 10,
vous avez des tiges. Et vous gagnez combien si c'est pas indiscret?
Ah ben ça, ça c'est plutôt indiscret.
C'est plutôt indiscret.
Mais oui, voilà, donc on a une base de salaire.
C'est parce
et puis
que
après,
vous
c'est,
souhaitiez,
c'est...
j'imagine. C'est, ça commence en bas, de, ça commence en bas du tableau.
Bon, moi, j'interviens en tant que chef de service. Les salaires d'assistance, c'est moins de 2000 euros, 1008, et les gardes sont payés 250 euros brut, la garde de 12 heures. Donc vous voyez que les salaires, c'est indiscret, mais dans le sens gênant. Le différentiel est terrible, en fait. Ça, c'est un problème d'attractivité majeur en début de carrière.
Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui... C'est un sacerdoce, j'imagine. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Au-delà de l'image du « oui, on sauve des vies, on est content », la réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend sur
le travail? La réalité, c'est quand même le contact. C'est quand même le contact, malgré des conditions quand même de travail qui ne sont pas forcément faciles. Mais c'est vrai que c'est le contact avec les équipes, les patients et l'humain. Ouais. Mais le truc, c'est qu'à côté de ça, ben, y a tout ce qui n'est pas humain qui, des fois, nous empêche de profiter justement de notre métier et de le faire correctement. Quoi.
Donc, pour travailler dans un hôpital, dans un centre hospitalier, il faut être passionné.
Plutôt,
sinon,
ouais.
Ça
sinon,
pas.
Ça marche pas.
Il
faut être passionné et patient.
Merci, docteur. Est-ce qu'il y a assez de lits? Combien de temps peut rester aux urgences?
Alors, vous posez deux questions en une. Ouais.
Alors, on commence par laquelle?
La durée moyenne de séjour aux urgences est un critère qui ne nous satisfait pas. Vous venez parce que vous avez deux boutons sur la langue, et ça arrive. Objectivement, ouais. Vous aurez un rendez-vous de dermato en ville à 15 jours. Je ne vois pas pourquoi ces patients se plaignent d'attendre 4 heures aux urgences. D'ailleurs, ils n'ont pas à être pris aux urgences. Ça, c'est le premier sujet. Mm-hmm. En revanche, vous avez un infarctus, vous devez être pris très vite en appelant le SAMU ou en venant. Donc, vous voyez que la durée moyenne de séjour, pour nous, n'est pas le bon critère. Après, vous posez le problème du nombre de lits et de l'adéquation entre les lits qu'on a et le profil de patient. Alors là, vous touchez du doigt une sensibilité, c'est que dans un CHU, par exemple, nos services sont tous hyper spécialisés parce que c'est ce qu'on nous demande, mais la pathologie qu'on reçoit aux urgences est très régulièrement non spécialisée, polypathologique, âgée, et ne répond pas stricto sensu à la spécialisation d'un lit.
Le vieillissement de la population, vous le sentez?
Exactement.
Ici.
En fait, ce vieillissement de la population est en train de nous ramener à la nécessité d'avoir des lits de médecine polyvalente, ce qu'on avait naguère, et ce qui, avec le développement de la médecine, c'est de plus en plus réduit pour la surspécialité. Donc, vous voyez, en fait, tout est une histoire de balancier.
C'est quoi ces patients? Ce sont des personnes âgées qui ont personne qui s'occupe de chez eux? Ils arrivent ici pourquoi? Parce qu'un traitement ne va pas? Parce qu'ils sont tombés?
Non, d'abord, vous avez les maladies chroniques qui s'acutisent et qui dégénèrent, le vieillissement. Et effectivement, dans notre hôpital spécifiquement, le milieu socio-économique environnemental génère de l'isolement. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes pathologies aux urgences quand vous êtes à Versailles ou à Lyon 8e, très manifestement.
Il faut être aussi un peu psychologue, professeur Tazahort.
Vous voyez, les qualités d'urgentiste, c'est l'empathie, c'est la disponibilité, la plasticité intellectuelle et technique, et en même temps, la vision précise des circuits patients. Donc c'est pour ça qu'un urgentiste, quand vous lui demandez comment marche la santé sur le territoire, il pourra vous le dire, parce qu'in fine, c'est le dernier maillon.
Quand les urgences vont mal, tout va mal.
Oui.
Dans l'hôpital.
Oui. Alors, là encore, message positif pour vos auditeurs, hein. Pas de sinistrose. En France, on a quand même la chance de pouvoir être géré correctement pour les pathologies aiguës. Notre problème en ce moment est l'accès aux soins non programmés, j'insiste. Donc pas de sinistrose.
Les gens viennent aussi ici parce que c'est gratuit? Ou ils ont l'impression que c'est gratuit?
Oui, alors ça, on a un énorme problème de sensation de gratuité des soins. En fait, il y a une dématérialisation de ce que coûte le soin et ce que le citoyen perçoit. Et ça nous pose problème. Effectivement, quand il faut payer, les gens sont surpris.
Voilà, merci Nikos, merci à toutes les équipes du CHU de Lyon. C'est aussi, c'est ça le sens de ces matinales que nous faisons, ces matinales spéciales avec Europe 1, avec toutes les équipes. Ensemble, on se déplace pour voir, pour se faire expliquer les métiers, les savoir-faire. Voilà, on se retrouve tout à l'heure avec Nikos Aliagas.
Et continuez à réagir sur Twitter en nous envoyant vos messages, hashtag Europe 1.
Europe 1.
À suivre, Pierre Devineau.
Votre matinale spéciale qui continue en direct du CHU Édouard Herriot de Lyon. Dans un quart d'heure, ne manquez surtout pas l'interview de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle répondra aux questions de Nikos Aliagas et d'Audrey Crespo-Mara. Et puis, dans une petite minute, c'est la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Ce matin, le mystère de l'huître géante en Vendée. À tout de suite.
Excellente matinale, écoute d'Europe 1. Il est 7h54. Il est 7h55, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Pierre.
Vous savez quoi, tous les jours, Jean-Philippe Ballas, et ce matin, nous partons en Vendée pour le mystère de l'huître géante.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un gros caillou ou un genre de coquillage. En tout cas, c'est bizarre. Rudy et son copain Gabriel inspectent leur découverte, c'était là dans le sable près de l'eau. Ils ont bien une petite idée, les deux gamins de 10 ans. Mais d'abord, ils vont demander au père de Rudy. Il s'y connaît, il est ostréiculteur, il saura quoi dire. Et il n'en revient pas, ce truc est une huître. Mais alors, une huître de compète, les amis. 27 cm de long, elle pèse plus d'un kilo et oui, elle est vivante. À ce stade du récit, nous rappellerons que le monde se partage en deux, ceux qui adorent les huîtres, l'iode, l'air de la mer, tout ça, et ceux qui détestent parce que ça ressemble un petit peu, vous savez, enfin bon, on va éviter les comparaisons, cette heure somme toute matinale. Mais au moins, vous serez tous d'accord avec moi sur un point, une huître de 1,3 kg, même quand on kiffe,
C'est chaud. Et personnellement, je ne savais pas qu'une huître pouvait être aussi grosse. Une huître oubliée au fond d'un parc qui a survécu, qui a grandi à l'abri pendant tout ce temps. D'ailleurs, on ne sait pas trop quel âge elle peut avoir. Sans doute une trentaine d'années, c'est ce que pense le père du Rudy, qui va désormais la conserver précieusement au fond de l'eau et suivre son développement. Juste le temps pour Rudy et son copain de prendre la pause une dernière fois, pas peu fiers avec leur spécimen, leur trésor, ce qu'on appelle les aventuriers de l'huître perdue.
Merci Indiana Ballas.
À suivre le journal de David Doucan.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Mais tout de suite c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Avec Indiana Cabrol.
Ouais.
Ça va, monsieur l'aventurier ?
Une histoire à vous faire tourner en bourriche. Hein.
Bon,
alors, les températures ce matin, moins 6 degrés au Puy, moins 4 à Saint-Étienne, moins 2 à Nancy, moins 1 à Teron, 0 à Lyon-Bron. Lyon-Bron, là où se trouve Nikos, puisque il y a Lyon-Saint-Exupéry, qui est à 25 km. Donc nous donnons toujours la température à Lyon-Bron, parce que c'est plus proche de la ville. 1 à Bourges, 2 à Lille, 3 à Strasbourg, 4 à Paris, 5 à Brest. Et dans la journée, nous irons de 13 à 17 degrés, donc des valeurs assez sympathiques. 15 dans la capitale, 15 à Lille, 16 degrés à Lyon, à Bourges, à Poitiers et Nice, jusqu'à 18 à Toulouse, et pour les températures les moins douces, 11 degrés à Lorient. Mais enfin, vous voyez, il y a une grande amplitude entre le matin et le soir, c'est un peu la marque de ce début de mois. En ce qui concerne les villes sous la pluie, Saint-Nazaire, Quimper, Vannes, Nantes, Lorient, Laval sont des villes où il pleut et où il pleuvra une grande partie de la journée, car la pluie est là sur la façade atlantique et elle y restera pratiquement jusqu'à ce soir, en sachant que devant cette perturbation, sur le nord, le Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, sur Paris, sur la Bourgogne, le centre et le Massif central. Nous sommes là dans un ciel parfois couvert, mais lumineux, surtout ce matin, et il ne pleuvra pas dans ces contrées, notamment sur la capitale. En Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, ce sont des pluies progressives, celles que j'indiquais à l'instant, qui longent l'Atlantique, mais qui resteront là toute la journée, je l'ai dit, sur le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon, un ciel souvent menaçant. Vous savez tout sur la journée, demain, c'est pas folichon du tout, avec une perturbation qui traverse quasiment toute la France, et dimanche, il pleuvra beaucoup dans les régions du sud. On doit s'en réjouir car ce sont des pluies salutaires que nous aurons à la fois demain et après-demain. Et ces pluies seront très présentes alors que dans le nord, ça ira plutôt mieux.
Merci Laurent Cabrol.
Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1 ce vendredi 5 avril. Et bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue avec Nikos Aliagas en direct de Lyon et Pierre Devineau en studio à Paris.
Et à 8h, le journal, c'est David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour.
La matinale spéciale au CHU de Lyon, nous vous présenterons une innovation dès le début de ce journal, un cœur artificiel portatif qui sauve des vies. C'est toujours un moment désagréable pour un président de la République se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. L'article phare de la loi anti-casseurs est rejeté. Une mauvaise nouvelle pour les policiers. Vous entendrez l'un de leurs représentants dans un instant. Les migrants qui tentent la traversée de la Manche en bateau, policiers et gendarmes ont reçu de nouveaux équipements pour lutter contre ce phénomène dangereux. Reportage dans cette édition.
8h12, Vincent Hervouet, la guerre civile en Libye risque de repartir de plus belle.
Europe 1.
Et retournons donc sans plus attendre à Lyon, au centre hospitalier où vous vous trouvez, Nikos Aliagas, et vous nous parlez d'une innovation technologique qui sauve des vies.
Oui, David Doucan. En fait, c'est une pompe cardiaque portative. Elle agit comme un cœur artificiel qu'on peut transporter partout. On peut l'emmener sur les lieux du malaise ou de l'accident. Avec nous, Jean-Luc Bougeon, notre correspondant à Lyon et dans la région. Vous avez rencontré Loïc, qui, lui, doit la vie à cet appareil.
Oui, nous sommes en octobre 2017. Loïc, qui est paysagiste, est dehors en train de ramasser des feuilles.
D'un seul coup, je sais pas, je suis tombé en arrière. Puis après, trou noir. Le malaise, l'arrêt cardiaque.
Alors immédiatement, ses collègues formés au premier secours lui font un massage cardiaque. Puis très vite, ce sont les secouristes du SAMU qui arrivent sur place avec le fameux cœur artificiel portatif.
C'est une pompe qui travaille, quoi, qui fait le même mouvement qu'un cœur normal, quoi. Donc c'est que là, ils m'avaient arrêté le cœur normal, quoi, pour le laisser se reposer. Et ils m'ont mis le cœur artificiel en attendant que mon cœur se remette normalement à battre, quoi.
Voilà, une technologie jusque-là utilisée uniquement au bloc opératoire. Désormais, elle est transportable, ce qui change beaucoup de choses, explique le docteur Pierre-Yves Dubien, chef adjoint du SAMU de Lyon.
Ça ressemble, je dirais, à une grosse boîte à chaussures qui fait 5-6 kilos. C'est une machine qui est faite pour être transportée. C'est le délai d'intervention qui est beaucoup plus rapide. Donc si on peut proposer la mise en place de cette technique d'assistance dès le lieu de l'arrêt cardiaque, ben en fait, on gagne 45 minutes et donc peut-être une vie.
C'est donc à cette boîte à chaussures que Loïc doit d'être aujourd'hui parmi les siens. Sa maman Patricia en est bien consciente.
C'est un miracle. Vraiment, le cœur artificiel, c'est vraiment quelque chose de formidable et de merveilleux. Sinon, il ne serait pas parmi nous.
Et donc, chaque année à Lyon, ce sont 20 à 30 vies qui sont sauvées grâce à cette technique.
Merci Jean-Luc Bougeon, on est toujours en direct de Lyon, à David Ducamp depuis le CHU Édouard Herriot. On attend la ministre de la Santé dans quelques instants, Agnès Buzyn. Nous allons la rencontrer et Audrey Crespo-Mara fera l'interview politique. En attendant, David, Pierre, c'est à vous pour la suite du journal.
Merci Nico, c'est un coup dur pour Emmanuel Macron. L'article phare de la loi anti-casseurs a été retoqué par le Conseil constitutionnel.
Oui, l'article 3, celui qui aurait permis au préfet d'interdire à des individus représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public de manifester pendant un mois. Les policiers auraient aimé pouvoir appliquer cette disposition, ou à tout le moins qu'elle soit mieux écrite. Écoutez Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de police Synergie Officier.
On a un certain nombre de gens dont on sait qu'ils sont dangereux, dont on sait qu'ils sont susceptibles de participer à de la casse. Ces gens-là, on aurait pu leur interdire de manifester uniquement sur des périodes qui sont circonscrites aux jours de rassemblement des Gilets jaunes. Et ça, c'est effectivement un gros problème pour nous, et ça va nous handicaper pour les manifestations à venir. On sait que les Black Blocs de toute l'Europe se donnent rendez-vous à Paris le 20 avril. Donc oui, pour nous, c'est une mauvaise décision. Et oui, il y a beaucoup de gens qui vont s'engouffrer dans cette faille et qui vont en profiter pour casser, pour blesser des policiers, pour blesser des gens, pour mettre le feu à des édifices publics. Donc oui, on a un véritable problème là-dessus d'inadaptation de la loi par rapport à la réalité qui est vécue.
Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de police Synergie Officier, était avec Guillaume Bier.
Les traversées de la Manche en bateau, des migrants qui essayent par tous les moyens de rejoindre le Royaume-Uni.
Oui, et les autorités prennent le problème à bras-le-corps en mettant les grands moyens. Drones, jumelles thermiques, motos tout-terrain. Les policiers et gendarmes du Pas-de-Calais viennent de recevoir ces nouveaux équipements. Reportage à Ambleteuse, Lionel Gougelot.
Avec sa caméra embarquée, le drone survole les dunes du littoral, là où se cachent les passeurs et les migrants qui tentent les traverser en canot pneumatique. Le télépilote peut ainsi surveiller la zone dans un rayon d'un kilomètre.
Le plus, c'est de pouvoir éventuellement détecter des départs et lever des doutes entre un bateau de pêcheurs et puis, une embarcation qui est suspecte. Éventuellement détecter la nuit des mouvements qui devraient ne pas avoir lieu et envoyer les collègues pour procéder à des contrôles.
Sur une zone plus vaste, policiers ou gendarmes peuvent aussi avoir le soutien d'un hélicoptère. Au sol, le gendarme repère sur un petit écran le secteur balayé par la caméra de l'hélico.
Ouais, nickel pour le retour image.
Bon, on a repéré quelques individus.
Et la liaison radio permet d'orienter les interventions pour empêcher une traversée de migrants.
On a une équipe qui est déjà en train de faire les dunes, hein, à la recherche d'individus. Voilà, et après, c'est l'hélicoptère qui va nous coordonner au sol, hein, nous demander de progresser dans telle ou telle direction en fonction de ce qu'il voit.
Des moyens modernes de surveillance qui s'ajoutent aux patrouilles quotidiennes en 4x4 ou à moto tout-terrain. Il y a eu une vingtaine de traversées réussies vers la Grande-Bretagne depuis le début de l'année. Ce dispositif devrait permettre de réduire encore le phénomène.
Le reportage de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougeot, je précise que ces équipements ont coûté 2 millions d'euros, en grande partie financés par le Royaume-Uni. Le crash du 737 MAX d'Ethiopian Airlines, un rapport préliminaire des autorités éthiopiennes dédouane les pilotes. Le constructeur Boeing en a pris acte et promet que toutes les mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité seront mises en œuvre.
Europe 1, il est 8h04.
La suite de la descente aux enfers de Carlos Ghosn. Il est à nouveau en prison. Sa garde à vue vient d'être prolongée jusqu'au 14 avril.
Oui, et même s'il a quitté son poste de patron de Renault en janvier, cette situation exaspère les salariés. Après les dernières révélations, les langues se délient au sein du groupe. François Geffrier.
Une atmosphère pesante, malsaine, selon un salarié du siège de Renault. Il faut qu'on passe à autre chose, confirme un cadre. Tous les jours, on en apprend. Laurent Giblot, délégué central adjoint de la CGT, subit même dans sa vie quotidienne les rebondissements de l'affaire Carlos Ghosn.
Quand je vais sur le marché, il y a toujours quelqu'un qui me connaît, qui me rappelle « T'as vu ton patron ? Il est encore en prison, il a piqué dans la caisse. » Bon, voilà, c'est plus drôle du tout. C'est pas très sain de travailler dans un climat pareil.
Un représentant de l'État va dans le même sens. On doit absolument refermer cette page parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas de business, dit-il. Pour ça, Renault doit être plus transparent. C'est ce que demande Franck Daout de la CFDT.
Comment se fait-il que ces pratiques soient passées en travers des mailles du filet de Renault ? Ça, c'est une question à poser. Et là, il va falloir repenser le fonctionnement de la présidence. Ça, je pense que c'est pris en compte par la nouvelle équipe. Enfin, nous l'espérons et on fera le nécessaire pour que ça soit pris en compte.
Selon les syndicats, un point rassure en interne, la rémunération raisonnable des nouveaux patrons et surtout la suppression de la retraite chapeau que devait toucher Carlos Ghosn. Un membre du conseil d'administration s'en félicite. On a fait les choses de manière extrêmement juste, dit-il. C'est solide juridiquement.
François Geffrier du service économie d'Europe 1. Les groupes Altice et Free n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Par conséquent, si vous possédez une Freebox, vous n'avez plus accès aux chaînes BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business.
La sortie aujourd'hui d'un album de reprise de Jacques Brel.
Oui, le titre c'est Brel, ces gens-là. Alors le casting, Carla Bruni, Zaz, Bernard Lavillier, Michel Jonas notamment, mais aussi Thomas Dutronc qui reprend Pierre et adapte Vesoul.
T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul.
Pour moi, Jacques Brel, non seulement voilà, c'est un grand auteur de chansons, de textes, de mélodies, un grand interprète, mais aussi un personnage. Il était torturé par la vie, par les sentiments, par l'amour, par plein de choses. J'ai choisi la chanson Vesoul parce que d'abord on la retient vraiment bien, elle a quelque chose de drôle, et elle a beaucoup d'humour. Et puis en plus, il y a Dutronc dedans. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc c'est génial parce qu'il parle de mon père à l'époque qui était un phénomène où tout le monde allait le voir à Paris, il fallait absolument le voir. C'était un peu unique en son genre et donc c'est pour ça que dans la chanson, il y a t'as voulu voir Dutronc, on a vu Dutronc, c'est comme si c'était la Tour Eiffel quoi. C'est quand même la classe quoi, c'est quand même grande fierté.
T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc.
Thomas Dutronc avec Diane Chénouda du service culture d'Europe 1. Football, la 31e journée de Ligue 1 commence ce soir. L'Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux et les Marseillais détiennent un record, Pierre. Cela fait 42 ans qu'ils n'ont pas gagné chez les Girondins. C'est donc un défi pour Marseille ce soir.
Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, David Doucan.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, faites-le en nous envoyant vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Il est 8h08, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Pierre.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Pierre, bonjour Céline, bonjour Audrey, bonjour à tous. Bonjour.
Le Conseil de sécurité convoqué en urgence, Conseil de sécurité de l'ONU, la guerre menace Tripoli en Libye.
Oui, les juges devraient faire quelques mois en prison, histoire de savoir où ils envoient les condamnés. C'est bien aussi que les diplomates fassent un stage là où l'État s'effondre. La panique des familles, la fuite des puissants, la lie de la société qui prend les commandes, les fake news en folie. Il faut avoir vu le monde à l'envers pour avoir toute sa vie le goût du compromis. Le secrétaire général de l'ONU a débarqué hier à Tripoli, visite surprise, au bon moment, au bon endroit. Il est venu préparer une conférence de réconciliation. Antonio Guterres avait à peine fini de tweeter pour annoncer la démocratie et la prospérité que le maréchal Haftar donnait l'ordre à ses troupes d'avancer sur Tripoli. Le maréchal Haftar, c'est l'homme fort de l'Est libyen. Il a débarrassé Benghazi à des hommes de Ben Laden. Il vient de mener une campagne éclair au sud de la Libye pour virer les Touaregs et remettre en service les puits de pétrole. Et il dit que l'heure est venue de chasser les terroristes et les mercenaires de la capitale. Il demande à ses hommes d'épargner les civils, les institutions et les étrangers. Ben, ça tombe très bien pour Antonio Guterres, car il est tout ça à la fois, un civil, une institution et partout à l'étranger depuis qu'il est à l'ONU.
Est-ce qu'il va vraiment y avoir une bataille à Tripoli ?
Ben, les troupes d'Haftar sont à la porte. Les islamistes les plus enragés fuient depuis 48 heures avec leur harem. Khalifa Haftar veut le pouvoir. Il aime les uniformes chamarrés comme Kadhafi. Le maréchal est un colonel qui aurait bien vieilli. Les Égyptiens, les Émiratis, les Saoudiens le financent. Les Américains et les Russes le soutiennent. Les Français font davantage encore. Et au bout de 8 ans, il est temps de finir cette guerre qui a passé la Libye à la broyeuse. Cette guerre scandaleuse déclenchée par la France et que l'ONU avait bénie en son temps.
Merci, c'était l'édito international de Vincent Hervouet.
Europe 1. À suivre, Pierre de Villeneau.
Restez avec nous dans deux minutes, l'interview politique d'Europe 1 avec vous, Audrey Crespo-Mara.
Oui, notre invitée sera Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Elle est à Lyon avec Nikos. Nous ferons l'interview tous les deux.
A tout de suite.
Belle matinée sur Europe 1, il est 8h10. Il est 8h12, Pierre de Villeneau.
Retour à Lyon où Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, est à vos côtés, Nikos Aliagas.
La ministre des Solidarités et de la Santé, effectivement, Pierre de Villeneau. Bonjour Madame la ministre.
Bonjour.
Vous inaugurez cet après-midi un bâtiment qu'on appelle un trauma center ici au CHU Édouard Herriot. Nous sommes en direct depuis ce matin, on découvre les espaces et ce nouvel endroit va regorger de technologies innovantes. Et c'est vrai que le milieu hospitalier, vous le connaissez, vous l'avez dans votre ADN, vous êtes hématologue, cancérologue. Quand vous arrivez sur le terrain, vous n'avez pas envie de remettre la blouse ?
En tous les cas, j'ai toujours une émotion, retrouver un hôpital, retrouver les blouses blanches, les personnes qui y vivent la nuit, les odeurs, les bruits, c'est toujours très, très émouvant pour moi et j'ai toujours un pincement au cœur en me disant peut-être qu'un jour je retrouverai mon métier d'avant.
Médecin un jour, médecin de toujours.
Toujours, oui, absolument.
Tout à l'heure, avec notre consoeur Mélanie Gomez, que vous connaissez, on a rencontré des gens au service des urgences, des infirmiers, des aides-soignants, mais aussi des médecins, de jeunes médecins qui, après 11 années d'études, gagnent le SMIC et qui travaillent souvent dans des horaires difficiles, de 12 à 14 heures la nuit, parfois dans des conditions un peu tendues, avec des violences, avec beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on doit dire à des jeunes étudiants pour qu'ils deviennent médecins ?
Alors, je crois qu'ils le savent, c'est un merveilleux métier. Bon, d'abord, ils ne vont pas gagner le SMIC toute leur vie. C'est le premier stage d'internat. Ils sont encore en formation et progressivement, leur salaire augmente, heureusement. Et puis, ça apporte, ils le savent, des satisfactions extraordinaires, ce rapport avec les malades. Et puis, l'esprit d'équipe, ce qu'on apprend dans un hôpital, c'est... Ce sont des moments extraordinaires de la vie, même si c'est très, très dur.
Parfois, ils sont découragés.
Parfois, c'est très déprimant. Parfois, c'est décourageant. Mais c'est aussi un moment très intense de la vie où on apprend son métier. Et ensuite, c'est un métier qui donne énormément de satisfaction. Et ça n'est pas pour rien que des milliers de jeunes aujourd'hui veulent s'inscrire en médecine, veulent être médecins. Voilà, avec des hauts, des bas, on les connaît. Moi, je fais en sorte, là, avec la loi santé, que les professionnels de santé retrouvent du goût. Du goût à la vie professionnelle, retrouvent de la qualité de vie au travail, retrouvent le sens de leur métier, qui est de soigner. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils aient de moins en moins de problèmes administratifs. J'ai envie de leur faciliter la vie et leur rappeler que ce métier, c'est avant tout un métier humain.
Vous allez dans quelques instants aborder les thèmes d'actualité avec Audrey Crespo-Mara. Aujourd'hui, c'est le SIDAction, Madame la Ministre. Jusqu'à dimanche, on a les chiffres du SIDA qui sont tombés récemment. Et on voit le nombre des contaminations qui stagnent à 6400 contaminations par an depuis 10 ans.
Oui, c'est une très mauvaise nouvelle en réalité. Cela fait des années que nous n'arrivons pas à réduire ce nombre de contaminations chaque année. D'abord, un message à passer à tout le monde et notamment aux jeunes, le préservatif reste.
Vous avez initié le remboursement du préservatif.
C'est pour cela que ce préservatif qui est maintenant remboursé sur ordonnance peut être une aide pour des jeunes qui peuvent avoir des difficultés à aller s'acheter des préservatifs. Je rappelle que ça protège aussi de toutes les maladies sexuellement transmissibles qui sont en recrudescence parce que les jeunes n'utilisent plus et les gens n'utilisent plus de préservatifs. Donc c'est très important d'y penser. On peut se faire aider donc par une prescription médicale. Et puis, je dois mettre en place, évidemment, une stratégie beaucoup plus offensive pour l'accès au dépistage, ce qu'on appelle les TROD, hein, les tests rapides de dépistage.
Ça reste un sujet tabou
encore. La PrEP, ça reste un sujet tabou. C'est incroyable comment, 40 ans après quasiment, ça reste un sujet tabou. C'est même inquiétant de voir que notre société n'arrive pas encore à parler facilement de ces sujets-là. C'est une maladie chronique. C'est une maladie qui reste grave, puisqu'on prend des traitements toute la vie et qu'on peut prévenir. Et l'objectif de la France, c'est d'arrêter cette épidémie en 2030 pour notre pays. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons le dépistage, les tests, la PrEP, qui est un traitement de prévention. Nous avons le préservatif remboursé. Si avec tout ça, nous n'arrivons pas à faire changer les pratiques, c'est à désespérer. Donc, dans mon plan de prévention, il y a des mesures qui visent à renforcer tous les outils de prévention pour l'avenir.
Une adresse sur internet, sidaction.org, et faites vos dons, ce que vous pouvez, ce que vous voulez, mais participez au 110. Merci Madame la Ministre. Tout de suite, Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique.
Bonjour Nikos, bonjour Agnès bonjour. Buzyn.
Bonjour.
5 pensionnaires d'un EHPAD sont morts dimanche dernier près de Toulouse. Vous vous êtes rendu sur place. Hier, le procureur a révélé une toxi-infection alimentaire. De quoi s'agit-il précisément et que s'est-il passé exactement ?
Alors je laisse évidemment le procureur mener cette enquête, une instruction est en cours, mais nous avions déjà besoin d'avoir la certitude que ces pensionnaires étaient bien décédés ou malades d'une infection d'origine alimentaire. Donc ils ont dû, dans leur repas mixé, avaler une bactérie ou une toxine, donc celle-ci est en cours d'identification, les recherches sont encore en cours. Nous voulions être certains qu'ils n'avaient pas d'acte de malveillance, évidemment, pas de défaut de prise en charge. Tout cela, l'enquête, évidemment, va nous le dire au fur et à mesure. Mais c'est important pour les familles de savoir que c'est quelque chose qui semble accidentel à ce stade. Et donc, voilà, j'attends évidemment les conclusions du procureur pour prendre des mesures si nécessaires. Encore faut-il... identifier s'il y a eu un dysfonctionnement notable, notamment au niveau des cuisines, puisque cet établissement avait été visité par un organisme de contrôle. La cuisine avait été visitée en février et l'organisme de contrôle n'avait pas observé de dysfonctionnement. Donc voilà, nous verrons si c'est vraiment un accident malheureusement inévitable ou s'il y avait encore des choses qu'on aurait pu prévenir.
En France, Agnès Buzyn, la moitié des EHPAD ont du mal à trouver du personnel parce que le travail en EHPAD est dur et mal payé. Pourquoi n'est-ce pas une urgence budgétaire de payer beaucoup mieux ces femmes et ces hommes qui s'occupent de nos parents et de nos grands-parents ?
C'est une urgence, tout court. Il y a une part budgétaire, mais pas seulement. Le métier est très difficile.
Et mal payé.
Et mal payé, vous avez raison, mais ne donne pas beaucoup de perspectives de carrière. Et donc aujourd'hui, vous le savez, on m'a rendu un rapport, le rapport de Dominique Libault la semaine dernière, pour aller vers une loi d'accompagnement du grand âge et de la dépendance. Cette loi sera présentée avant la fin de l'année et elle vise justement à repenser notre modèle des EHPAD, à repenser notre modèle du vieillissement, à mieux former, mieux accompagner, mieux valoriser les professionnels qui travaillent autour des personnes âgées. Quand je dis valoriser, c'est à la fois dans la qualité de vie au travail, dans la formation, mais aussi sur le plan salarial, je ne l'oublie pas. Et cela visera à améliorer la qualité de vie dans les EHPAD. Nous avons aussi un plan sur la bien-traitance. Tout cela est en train d'être mis en œuvre. Mais l'urgence pour moi, c'est de repenser les métiers du grand âge et je lance tout de suite une concertation. C'est la priorité de ce plan pour le grand âge. C'est vraiment améliorer la formation des professionnels, valoriser leur métier, leur donner des perspectives et améliorer la qualité de vie au travail pour que ces EHPAD puissent de nouveau recruter. Car aujourd'hui, vous avez raison, c'est un énorme souci.
Alors, pour financer la dépendance, pourquoi ne pas reculer l'âge de départ à la retraite ? Depuis que vous avez dit qu'à titre personnel, vous n'étiez pas hostile au report de l'âge, 62 ans, on ne parle plus que de ça. Vous regrettez d'avoir jeté un énorme pavé dans la mare ?
Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit, en réalité.
Pas hostile au report, si.
Alors, non, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Il y a deux sujets différents. Il y a le sujet des retraites, qui est aujourd'hui une question d'équité et sur lequel le haut-commissaire travaille, c'est-à-dire une réforme qui permettrait plus d'égalité, plus d'équité dans la façon dont on reçoit les pensions aujourd'hui. Nous savons qu'il y a énormément de régimes différents.
Et Jean-Paul Delevoye ne veut pas, d'ailleurs, qu'on touche à l'âge.
Cette réforme ne met pas... Ne discute pas de l'âge de la retraite. Par ailleurs, moi, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que notre population allait vieillir et que la durée de vie allait augmenter et que nous allons avoir de plus en plus de centenaires dans un horizon de 20, 30, 40 ans. Notre durée de vie augmente. Et j'ai simplement dit que dans une société où la durée de vie augmente, il faudra qu'on se pose la question à un moment quand le nombre de personnes retraitées sera peut-être un jour supérieur au nombre d'actifs, de travailler plus longtemps.
Alors, voilà, vous en avez parlé, Édouard Philippe en a parlé, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin en ont parlé. On a donc bien compris, Agnès Buzyn, que le gouvernement aimerait reculer l'âge de départ à la retraite, malgré la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Donc, ce sera fait avant la fin du quinquennat.
Non, alors d'abord, quand on dit travailler plus longtemps, ça ne veut pas forcément dire reculer l'âge de la retraite. On peut travailler plus longtemps, on peut travailler plus simplement.
Donc on reste à 62 ans pour âge pivot, c'est sûr.
Ça peut être des jours fériés.
Le débat est clos, on reste à l'âge pivot 62 ans.
En réalité, il y a deux sujets différents sur la table. Il y a un sujet qui est aujourd'hui une réforme des retraites et par ailleurs, un sujet qui est lié au grand âge et à la dépendance, qui va nécessiter évidemment des financements conséquents. On parlait il y a un instant de valoriser les personnes qui travaillent dans les EHPAD. Si on veut augmenter le nombre de personnes qui travaillent auprès de nos aînés,
donc
si
on veut favoriser le maintien à domicile de 62 ans.
Pardon ?
On ne touche pas à l'âge pivot de 62 ans.
Non, moi, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, aujourd'hui, nous avons un sujet de société qui est le sujet
donc
de
on peut toucher à l'âge pivot
du grand âge. C'est un sujet qui touche tous les Français. Il n'y a pas une famille qui ne soit pas concernée. Tout le monde s'émeut qu'il n'y ait insuffisamment de personnel auprès des personnes âgées dans les EHPAD. Tout le monde s'émeut du fait que ces personnes sont très mal payées. Nous allons avoir besoin de prendre en charge 5 millions de personnes de plus de 85 ans à l'horizon 2050. Il va y avoir des centaines de milliers, voire 1 million de centenaires. Et donc, nous allons avoir besoin de financements conséquents. C'est un sujet de société. La société française devra se poser la question de savoir comment elle finance cela. C'est sur la table. Aujourd'hui, ce sujet du financement est sur la table. On m'a fait des propositions. Dans le rapport Libault, il y a une piste sur laquelle nous travaillons. Mais toutes les pistes doivent être débattues avec les Français parce que c'est devant nous, c'est un mur qui est devant nous. Nous dépensons beaucoup moins que les autres pays du monde pour prendre en charge les personnes âgées et les personnes âgées dépendantes. Et donc, c'est une question qui va, je dirais, s'imposer à nous dans les années qui viennent avec le nombre de personnes âgées qui va augmenter.
Agnès Buzyn, Xavier Bertrand réclame une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. François Ruffin, qui n'est pas du tout du même bord politique, réclame lui aussi une TVA à 0%. Alors, pourquoi le gouvernement ne tient-il pas compte de cette unanimité et n'adopte pas cette mesure ?
Alors, c'est une mesure qui est évidemment très séduisante. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons absolument pas la preuve que lorsque nous diminuons la TVA, ce soit les consommateurs qui en profitent, ce sont souvent les distributeurs qui augmentent leur marge.
Est-ce que c'est sur
la table, quand même ? Dans la restauration, on a bien vu que quand la TVA de la restauration a baissé, eh bien, ce ne sont pas les prix des repas qui ont baissé, ce sont les restaurateurs qui ont pris cette différence. Donc, en réalité, si ça ne bénéficie pas aux consommateurs et que ça bénéficie aux grands distributeurs, je pense que nous aurons tout perdu.
Or, est-ce que la question est sur la table quand même ?
Toutes les questions aujourd'hui qui émergent du grand débat sont instruites et sont regardées. Donc évidemment, la question est sur la table. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons aucune certitude que cette baisse de la TVA bénéficiera aux personnes qui en ont le plus besoin. Ça bénéficiera d'abord à tout le monde, y compris aux personnes les plus aisées. Et par ailleurs, nous savons que les distributeurs risquent d'augmenter leurs marges et nous aurons tout perdu.
Agnès Buzyn, hier, l'autorité de la concurrence a recommandé d'élargir la vente des médicaments sans ordonnance à la grande distribution. C'est une bonne idée ?
Écoutez, je n'y suis pas favorable pour deux raisons. La première, c'est que les médicaments ne sont pas un objet de consommation courante. Il y a toujours des effets secondaires quand on prend des médicaments. Ça nécessite toujours un conseil et les pharmaciens sont là pour donner des conseils, orienter les gens. Donc, considérer que les médicaments, ça s'achète comme n'importe quel produit de consommation alimentaire, je trouve ça problématique. Par ailleurs, aujourd'hui, les pharmacies ont un maillage territorial extraordinaire. Quand on parle de la désertification médicale, quand on parle de l'abandon des territoires, fragiliser les petites pharmacies en zone rurale, qui sont souvent le premier recours pour les personnes malades, je pense que ce serait une très mauvaise idée et un très mauvais signal.
Et donc, et faciliter la vente en ligne de ces médicaments sans ordonnance ?
Alors, nous y travaillons parce qu'il y a une demande, un besoin. Nous avons un groupe de travail qui se réunit avec les pharmaciens. Mais là encore, pour moi, l'enjeu, c'est la sécurité. On ne peut pas tout acheter sur Internet. Il faut absolument sécuriser ces achats sur Internet. Il faut que les pharmaciens, et notamment les pharmaciens de proximité, puissent bénéficier de cette vente en ligne et que ce ne soit pas au détriment de ce maillage territorial extraordinaire et du travail que font les pharmaciens au quotidien pour la santé publique.
Agnès Buzyn, je me permets de revenir sur l'âge de départ à la retraite, car Gérald Darmanin remet sur la table cette question. Vous nous dites qu'aujourd'hui, on ne touche pas à l'âge pivot de la retraite, 62 ans, ou c'est envisagé par le gouvernement ?
Moi, aujourd'hui, la seule chose que j'ai dite, et je le redis, je pense que quand une société va être amenée à vieillir aussi longtemps et que nous avons besoin d'énormément de financement pour accompagner le vieillissement de la population, je pose la question de savoir si la société française, à un moment, ne doit pas s'engager pour couvrir ces besoins de protection sociale nouveaux, puisque c'est un besoin nouveau, ça n'a jamais existé dans le monde de vieillir jusqu'à 100 ans.
Et 8 Français sur 10, Agnès Buzyn, 8 Français sur 10 ne veulent pas qu'on touche aux 62 ans, selon les Échos.
Mais là, je ne vous parle pas de... Aujourd'hui, je dis, il y a un problème de société, nous allons vivre beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'on pourra décemment rester à la retraite pendant des dizaines d'années lorsque le nombre d'actifs va diminuer, puisque nous savons que nous avons de moins en moins de naissances. Donc le nombre d'actifs diminue et le nombre de personnes retraitées augmente et en plus les personnes restent heureusement vivantes beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc nous avons un sujet de protection sociale, comment nous couvrons tous les risques, parce qu'avec ces risques, avec le vieillissement, il y a aussi le risque maladie, il y a aussi des prises en charge de santé et donc tout cela coûte énormément d'argent à la société française, c'est nous tous et nous sommes tous concernés. Et donc la question que nous devons nous poser, c'est quel est le prix que nous consentons à payer pour notre protection sociale, c'est-à-dire la santé et l'accompagnement des personnes âgées et de la dépendance. Je pense que c'est un magnifique sujet de société. On essaie de le cristalliser sur une question alors que en réalité, nous sommes absolument tous concernés par le vieillissement, nous sommes tous concernés par la santé, nous sommes tous concernés par la dépendance et nous savons que le mur arrive devant nous. Le mur, c'est des millions de personnes qui vont avoir plus de 85 ans, voire plus de 90 ans, voire 100 ans, et qui vont avoir besoin d'aide à domicile, de personnes qui viennent les soigner. Je pense qu'on ne peut pas ne pas se poser la question aujourd'hui. Et moins on anticipe cela, plus ça va être difficile de régler ce problème dans les 10 ou 15 ans qui viennent.
Merci beaucoup Agnès Buzyn. Merci beaucoup. À vous Nikos.
Merci Audrey Crespo-Mara. Une dernière question, Madame la Ministre. 3 numéros quand on est dans l'urgence, quand on a un besoin. Le 15, c'est le SAMU, le 17, la police, 18, les pompiers. Emmanuel Macron s'était dit favorable à un numéro unique. On en est où ?
On y travaille, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand on appelle les pompiers, parfois, c'est pour un incendie, c'est pas forcément pour un problème de santé. Et donc, il faut s'assurer que les personnes qui appellent vont être très, très vite redirigées vers le bon service. Un incendie, un vol, ça n'est pas tout à fait un problème de santé. Et donc, de tout rassembler en un numéro, ça l'intérêt de la facilité ou de la simplicité, mais il faut que derrière, on soit certain de l'orientation des personnes vers le bon service.
Merci. Merci Agnès Buzyn d'avoir été notre invitée ce matin en direct du CHU. Édouard Herriot, ici à Lyon.
Merci Nikos Aliagas à Lyon et Audrey Crespo-Mara à Paris pour l'interview politique de la matinale.
Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol et 8h30, l'essentiel de l'actualité. À tout de suite.
Sur Europe 1, il est 8h29. Excellente matinée sur Europe 1 avec la météo de Laurent Cabrol tout de suite, Pierre.
Je vois des rayons de soleil, Laurent, à travers la fenêtre de la rue des Cévennes dans le 15e à Paris.
Vous voyez bien, puisque de toute manière, ce sont des régions comme le Nord, le Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, la région parisienne, le Bourgogne, le Massif central, des régions où le soleil sera là. Ce sera un ciel lumineux, faut pas exagérer, hein, il y aura quand même pas mal de nuages. Oui, il fera très beau, c'est la Lorraine, l'Alsace, la Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes et la Provence-Côte d'Azur. Et puis là où vraiment nous avons de la pluie, Bretagne, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Aquitaine, Béarn, Pays de la Loire, pluie maintenant ou pluie tout à l'heure, mais il y en aura. Sur le Midi-Pyrénées, ce sera moyen avec nuages éclaircis. Et les températures, surtout ça, c'est la bonne nouvelle du jour, qui grimpent bien dans la journée. Elles sont basses ce matin, comme hier, et dans la journée entre 12 et 18 degrés. Demain, pas folichon du tout, à demain.
Merci Laurent.
Nous sommes
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Le vendredi 5 avril, toute l'actualité à 8h30 avec vous Pierre de Villeneuve.
Au Japon, le tribunal autorise la prolongation de la garde à vue de Carlos Ghosn jusqu'au 14 avril. L'ancien PDG de Renault Nissan a été interpellé hier 30 jours après sa libération sous caution. Loi anti-casseurs, l'Élysée a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré l'article le plus critiqué. Mesure qui aurait permis au préfet d'interdire à des individus représentant une menace d'une particulière gravité de manifester pendant un mois. Les suites de l'enquête sur la mort de 5 résidents d'une maison de retraite au Lerme, près de Toulouse. C'est une toxi-infection alimentaire qui est à l'origine des décès. Le procureur de Toulouse n'a apporté aucune précision sur les bactéries incriminées. Les Algériens comptent à nouveau descendre dans la rue aujourd'hui malgré la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Ils réclament aussi le départ des anciens fidèles du chef de l'État. L'édition 2019 du SIDAction débute aujourd'hui pour 3 jours, 25 ans après le début de la maladie. Les traitements ont progressé, mais l'association alerte sur la banalisation de l'épidémie.
Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Et la revue de presse est avec Ève Roger, Pierre.
Bonjour Ève Roger.
Bonjour Pierre, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors ce matin dans la presse, c'est la cacophonie qui l'emporte, le brouhaha, la confusion. Cacophonie d'abord autour du débat sur les retraites, on vient d'en parler. Faut-il repousser au-delà de 62 ans l'âge du départ à la retraite ?
On n'a pas eu la réponse, hein,
le
de
gouvernement. Non, mais le gouvernement s'enfonce dans la confusion, justement, estime le Figaro et les Échos. Cacophonie aussi dans l'affaire du Lévothyrox, ce médicament contre l'hypothyroïdie, dont la nouvelle formule provoque de violents effets indésirables, inexpliqués. Nouvelle étude publiée dans Le Monde, nouveaux résultats, qui donne raison cette fois aux mécontents. Le nouveau comprimé n'agirait pas de la même façon sur tous les patients, avec des variations beaucoup plus importantes qu'on ne le croyait jusque-là. Cacophonie enfin entre les 12 tête de liste pour le premier débat des européennes sur France 2 hier soir. Mais vous allez le voir, les journaux eux-mêmes sont divisés.
Les journalistes n'ont donc pas vu le même débat hier soir sur France 2.
Et non, le Figaro a jugé l'émission politique confuse. Tout le monde a haussé le ton pour essayer de glisser sa petite phrase. Et pour l'éditorialiste Guillaume Tabar, le débat a tenu sa promesse. L'impossibilité d'un échange réel ou approfondi à 12. Mais au contraire, considère le quotidien aujourd'hui en France, on craignait le chaos et la cacophonie. On a eu des échanges vifs mais courtois. C'était un débat délicat mais réussi. Avec des élèves plus ou moins bons, selon le journal, les mieux noté Manon Aubry pour La France Insoumise, pugnace, incisive, piquante. Jordan Bardella du Rassemblement National, un vrai poil à gratter. Moins bien pour François-Xavier Bellamy des Républicains, jugé trop sage, ou Nathalie Loiseau de La République En Marche, elle-même sans relief.
Confusion encore au sujet de l'âge du départ à la retraite.
Et on vient d'en parler, tous les journaux ce matin le constatent. La cacophonie règne au gouvernement sur cette épineuse question. Halte au feu, ça fait 3 semaines que le feuilleton dure, s'exclament les Échos. Stop à ce brouhaha incessant entre l'aile droite du gouvernement, Édouard Philippe en tête, qui fait mine d'ouvrir le débat, alors qu'officiellement il est verrouillé par une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et l'aile gauche qui ne veut pas en entendre parler. Et c'est dans le Figaro qu'un poids lourd de la Macronie prévient. Si cela arrive, le groupe En Marche à l'Assemblée explose. La promesse de Macron est intenable, pourtant constate l'éditorialiste du Figaro Gaëtan de Capelle. On ne peut pas réformer les retraites sans toucher à l'âge légal. Et le quotidien fait ce calcul simple. Un report d'un an rapporterait environ 10 milliards d'euros, exactement le montant qu'il faut pour financer la dépendance. Sauf que les Échos le rappellent en une, 8 Français sur 10 ne veulent pas qu'on touche aux 62 ans. Eux, au moins, sont d'accord, c'est déjà ça.
Division maintenant au sujet du retour des djihadistes français sur notre territoire.
Et oui, c'est une révélation du journal Libération ce matin. Tout était prêt, titre le quotidien en une, visage plein cadre d'Emmanuel Macron dans l'ombre. tout. C'est une opération de rapatriement de djihadistes français et de leurs familles. L'objectif était de les ramener du Kurdistan syrien pour les juger en France. Un plan précis, minutieux, très avancé, raconte Libé, avec 250 noms des hommes, des femmes, des enfants et même des numéros de vol pour les deux tiers d'entre eux. Et ce plan était encore d'actualité le 6 mars dernier, révèle Libération, il y a seulement un mois. Et pourtant, il a été bloqué in extremis, là encore, parce qu'il n'y avait pas de consensus. Un vif débat a divisé l'administration française, écrit le journal. Pour certains, en effet, c'était un moyen d'interroger les djihadistes, d'obtenir des informations, un moyen aussi de protéger les enfants, et puis de permettre enfin aux victimes d'avoir un procès en France. Mais le plan a buté sur l'opinion publique, raconte Libé, une opinion profondément hostile à un retour des djihadistes en France.
Et pour terminer, dites-nous Eve, quel est le contraire de la cacophonie ?
Eh bien moi je dirais entente et sérénité. Cette pirouette pour vous parler de la une d'aujourd'hui
pirouette
en France
cacahuète, hein.
Sur la bienveillance au bureau, où l'on apprend que de grandes entreprises sont en train de mettre en place des réseaux de bienveilleurs. Ils sont 800 bénévoles chez Gazino par exemple, tout niveau hiérarchique confondu, chargés de détecter les souffrances de leurs collègues, de leur tendre la main, de les guider, non pas vers la DRH, plutôt vers un médecin du travail ou alors vers un syndicat. Autre exemple, chez De Richbourg, c'est un géant du service aux entreprises. Mmh. Et là, c'est assez étonnant. Tous les mois, à chaque comité de direction, les 18 plus hauts cadres de l'entreprise sont invités à noter sur 10 leur rendement professionnel, ça semble normal, mais aussi leur vie privée, raconter les problèmes avec les enfants, une séparation, la perte d'un proche, pour partager et se faire aider si besoin. Alors moi, j'ai envie de vous dire ce matin, Pierre, ça va à vous ?
Très bien, et vous ? Parfaitement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci, c'était Roger.
C'était la revue de presse avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Europe 1.
Vous ne bougez surtout pas, il est presque là, le sale gosse du 7-9. C'est Nicolas Canteloup et sa revue de presse. À tout de suite.
Il est 8h39.
Attention, les voici Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et Nikos, vous êtes toujours en direct des urgences à Lyon.
Oui, oui, tout à fait. Je suis actuellement, je parle doucement parce que je ne veux pas déranger. Je suis aux urgences de Lyon, à l'hôpital Édouard Herriot. Mm-hmm. Il y a ici une découverte que l'on fait, puisque Europe 1 va plus loin, nous sommes en immersion. Il n'y a pas que des gens qui sont malades ici. Il y a également, on l'a découvert, des médecins. Des infirmières, des aides-soignantes.
Ah
beaucoup
bon
de monde ici. J'aperçois ce monsieur qui a un stéthoscope. Je suppose que vous êtes docteur. Très bien. Vous venez d'arriver, vous partez, vous travaillez ici. D'accord. Ok. Et là, ce patient souffre de quoi? De vomissements. Très bien. Et oui, vous voyez, c'est toujours imprévu, les urgences. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ce matin, c'est des vomissements. Demain, ce sera autre chose, une jambe.
Une jambe.
Qu'est-ce qui vous plaît dans excusez-moi, je ne veux pas vous déranger, vous êtes en plein travail sur ce vomissement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail à côté du côté, on sauve des vies, machin, truc, donc on s'en fout. Mais c'est quoi qui vous plaît? La passion. Vous êtes passionné. Passionné par les vomissements, vous voyez, c'est une vocation. Alors, il y a combien de lits ici? D'accord, il y en a un libre? Non, parce que je suis debout depuis 1h du matin, c'est pas plus. Et ce patient-là qui est là, monsieur, bonjour, comment vous appelez-vous? Vous êtes lyonnais? Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Gérard.
Vous souffrez de quoi, Gérard? Pardonnez-moi, je veux respecter le secret médical, mais on doit le savoir à l'antenne.
Écoutez, le docteur m'a dit que je souffrais d'une macronite aiguë. Je souffre énormément. Je suis en manque d'Emmanuel Macron. J'ai besoin qu'on me fasse avaler des gélules remplies de sueur d'Emmanuel Macron. Oui, c'est un petit peu salé sur la langue.
Oh,
vous voyez, c'est beau ce que permet la médecine. Aujourd'hui, on sauve des vies. On sauve des âmes, des humains. On sauve des... voilà. Ben on va se sauver, hein, bientôt. Ouais. À vous, Jules.
Merci, Nikos. Allez, puisqu'on parle santé, écoutez cette info. 13 modèles d'implants mammaires viennent d'être interdits en France en raison d'un risque de cancer.
Bonjour, oui, monsieur. Ah ben, il m'a reconnu. C'est Dominique Lormantier. Ouais. Ah ouais. J'entends que vous parlez de cela, le risque de cancer. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je n'endors plus la nuit.
Ah bon, monsieur Strauss-Kahn, mais comment ça, vous n'endormez plus la nuit?
Oui, je n'endors plus. Bon, c'est pas que je dorme énormément, la nuit en temps normal. Vous savez que mon rythme de vie avec nos soirées, avec monsieur Aliagas, n'aide pas à cela. Mais là, j'ai peur d'apprendre le pire avec toutes les prothèses mammaires que j'ai pu approcher, toucher, tâter, sucoter. J'ai peut-être attrapé aujourd'hui 8 cancers différents au bas mot. Si ça se trouve, l'homme qui est devant vous n'a plus que 2 heures à vivre.
Oula.
Monsieur Aliagas, vous pouvez me trouver un docteur? Dites en tout cas à ma femme que je l'aimais.
Non mais monsieur Strauss-Kahn, ça va quoi, les hommes ne sont pas concernés. Qu'est-ce que vous racontez là?
Dans quel monde vit-on? Franchement, c'est quand même pénible. Tout ce qui est bon, je m'en rends compte en prenant un peu de recul sur ce problème. Tout ce qui est bon donne le cancer. Les frites, la charcuterie, l'alcool, et maintenant laissé en plastique. D'ailleurs, les vraies victimes dans l'histoire, ce sont nous, les blindés. On nous brûle le Phuket, on nous oblige à boycotter le Maurice Lopez d'Athénée, et maintenant on peut même plus refaire les scènes de nos maîtresses. Ça commence à devenir lourd.
Ah, comme vous dites, allez, merci monsieur Strauss-Kahn.
J'en prie.
Allez, c'est la fin du grand débat. Emmanuel Macron était hier en Corse pour le conclure, ce grand débat. Bonjour monsieur le Président.
La lumière s'éteint déjà. Le débat est terminé. Je réveille mes ministres. Ils vont tous devoir bosser. Oui, bon, allez, c'est ridicule, je sais. Oui,
ah bonjour, non, c'est sympa. Non.
Voilà, c'était la dernière séance, vous l'avez compris. Le rideau sur le grand débat est tombé.
Alors, comment ça s'est passé, ce dernier débat en Corse?
Alors, écoutez, je vais vous répondre, je ne vais pas me dérober. D'accord. Comme d'habitude, les Corses m'ont donné plus exactement leur point de vue, je leur expliquais pourquoi le mien était différent et meilleur. Et en même temps, j'ai fait des pompes tout en battant Gilles Simeoni au bras de fer. Un séjour classique, vous savez.
Mais pour protester contre vos positions, les dirigeants nationalistes ont fait une opération Isola Morta, hein, île morte, un appel à ne pas travailler dans certaines administrations.
Vous êtes comme monsieur Aliagas, vous parlez toutes les langues.
Toutes les langues.
Mais écoutez, s'ils espèrent m'impressionner avec cela, franchement. Île morte, la Corse île morte, franchement, des fonctionnaires corses qui ne bossent pas. Mais qu'est-ce que ça change par rapport à d'habitude? Ils sont marrants.
Mais alors, qu'est-ce qu'il va en sortir de ce grand débat?
Alors, qu'est-ce qu'il va en sortir? On va en sortir des DVD. Des DVD dans un premier temps. Oui, je sors l'intégrale du grand débat en DVD. 23 DVD et plus 5 Blu-ray de mes meilleurs moments. Alors, les meilleurs moments, c'était très difficile, je vous le confie, cher Julie Leclerc, de les choisir, les meilleurs moments. Du coup, j'ai pas choisi. Je les ai tous mis. Et en bonus, j'ai mis mes commentaires audio pour détailler les moments où je suis vraiment excellent. Par ailleurs, alors ça, c'est bien aussi, j'ai demandé à ce que l'intégrale du grand débat soit disponible en streaming sur Macflix. Macflix, c'est la plateforme vidéo de l'Elysée. Pour 10€ par mois, vous avez tous mes discours, vous avez des recettes de Brigitte et le top 50 des meilleurs tubes de Nightclub présenté par Christophe Castaner.
On achètera tout ça. Merci. Merci, monsieur le Président. À propos de la Corse, des élus ont réclamé.
Moi, je dis c'est n'importe quoi, n'importe quoi.
Quoi?
Je n'achète rien
de vous. Vous voulez pas en acheter, Jean-Michel? Bon, allez, à propos de la Corse, ce jour, des élus ont réclamé à Emmanuel Macron de l'aide pour lutter contre la corruption.
Oh non, 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 moi, cher Julie, nom de grâce.
Mais Stéphane Bern, pourquoi ça vous fait réagir, cette info?
Mais enfin, chère Julie, je suis chargé du patrimoine, ouvrez les yeux. Il faut préserver les richesses de chacune de nos régions, quelles qu'elles soient. Et le patrimoine corse, qu'est-ce que c'est? C'est aussi la corruption, il faut dire les choses. En France, en Corse, plus exactement, pardonnez-moi, il y a la COPA, il y a le Lonzou et la corruption. Après ça, ça va être quoi? Ça va être la dégringolade, la lutte aussi contre le plasticage? Pourquoi pas la lutte contre les cagoules aussi? Je dis non, non, nos régions ont du talent, protégeons nos traditions.
Mais enfin, c'est important que des élus se mobilisent contre la corruption, Stéphane, allons.
Oui, alors bon, alors c'est vrai, alors conseil aux élus qui veulent lutter contre la corruption. Chers élus, quand un mafieux vous apporte une valise de billets, eh bien vous la refusez et hop, voilà, vous avez lutté contre la corruption. C'est une petite astuce magique que je vous donne. Ne me remerciez pas.
Oh, bon, on va vous remercier quand même, hein, Stéphane Bern, et vous dire au revoir.
J'ai parlé du Véranda Akena, non?
Non, mais c'est pas utile, c'est pas utile.
Ramenez-moi.
Allez, pour terminer, on va accueillir Nicolas Sarkozy qui intègre le conseil d'administration des casinos barrières. Alors on va l'appeler pour lui demander pourquoi, tiens, tout simplement.
Bonjour, c'est bienvenue au Casino Barrière. Hello, welcome to the Barrière Casino. Hola, bienvenuto en la Barriero Casinato. Les Casinos Barrières vous accueillent tous les jours de minuit à minuit et toutes les nuits à des horaires équivalents.
Envie de vous détendre en perdant un peu d'argent? Nos croupières et nos croupions sont là pour vous faire profiter de nos roulettes à boules équipées des numéros les plus élégants, comme le 8, le 22, le 13 ou même le 26. Vous aimez les machines à sous? Les Casinos Barrières vous proposent une gamme d'appareils sophistiqués où vous pouvez aligner 3 petits citrons, 3 petites cerises ou 3 petits régimes de bananes et ainsi remporter jusqu'à 19 centimes pour chaque dizaine d'euros joués. Vous êtes Patrick Bruel? Les Casinos Barrières vous proposent des salles de poker équipées de joueurs tchétchènes ou ukrainiens qui fument des gros cigares et qui vous délesteront avec plaisir et compétitivité de votre argent superflu. Alors, à bientôt dans les Casinos Barrières.
Monsieur Sarkozy, mais pourquoi avoir rejoint ces Casinos Barrières?
Madame Julie, oui. Pour le pognon. Je rigole.
Bon, c'est clair.
Un petit jeton au conseil d'administration, ça fait de mal à personne. Vous savez, il y a le prélèvement à la source maintenant, alors moi je m'adopte, hein, je vais au pognon à la source. Vous savez, j'ai trois passions, je ne m'en cache pas dans la vie. J'ai l'argent, le pognon et puis le flouze.
Sinon, tiens, le film que vous cherchez là depuis le début de la semaine pour rendre hommage à Agnès Varda, bah, ça y est, vous l'avez ce film?
Vous lâchez pas, vous.
Ah bah non, là on va terminer la semaine avec ça quand même.
C'est comme ça que vous avez fait 50 ans Europe 1.
Bah
avez...
tiens, je...
Écoutez, choisir un film dans la discographie, la filmographie, oui, c'est un rôle d'Agnès Varda. Oui. Oui. Écoutez, finalement, c'est trop réducteur. Elle avait tellement de personnalité, cette Agnès. On a parlé de la pharmacienne, de la surfeuse, de la pile électrique, mais est-ce qu'on a parlé de la militaire? De la soldate avec qui j'ai fait l'armée.
Oh là là, c'est quoi encore? Mais ça va être quoi cette fois-ci alors?
C'est Agnès Varda.
Oh là là.
Je me souviens, quand j'allais, oui, ça vient de moi, quand j'allais crapahuter dans le Sahel, et je l'appelais mon petit Varda. Est-ce qu'on a parlé de la matrice de pastis?
Ah bah non, mais c'est quoi ça alors?
Ben Agnès Varda.
Agnès Varda, oh là là, on va
Laura Cabrol, il l'avait lui au moins. Mais j'en ai d'autres, il y a la femme toujours fraîche sur les bras, Agnès Narta, la femme à la mode, Agnès Prada, il y a la femme préférée de Monsieur Aliagas, Agnès Tarak. Oui, bon,
oui bah allez, c'est bon. Il est temps qu'on arrête.
Merci à Nicolas Canteloup et à Julie, merci aux auteurs aussi, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Le tour de la question, c'est tous les matins sur Europe 1 de 9h à 11h. Et aujourd'hui avec vous, bonjour François Claus.
Bonjour Pierre. Eh bien, ce petit ruban rouge que vous portez,
oui.
Il a 25 ans déjà. Que de combats gagnés grâce aussi à l'action, que de combats à mener encore. On va faire le point évidemment sur le sida aujourd'hui. Certes, on a gagné, mais il y a des inquiétudes, notamment autour de la prévention des jeunes. On va faire le tour de la question et puis deuxième heure, on va parler de nous et de vous, chers auditeurs. Les podcasts, c'est pas un très beau mot, mais c'est la radio de demain et Europe 1 est au cœur de cette radio. On va vous expliquer tout ça.
Merci, à tout à l'heure, 9h pile, François Claus.
À suivre, oui, pour les appels. À suivre la météo et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h avec Pierre Devineau sur Europe 1. Il est 8h53. À suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Sadiagas. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Et avec 3 sur la France, ou au lieu 4 même. Allez, en Lorraine-Alsace, Champagne-Ardenne.
Alors, 3 ou 4 quoi? Parce qu'on n'a pas entendu.
Oui, on n'a pas entendu.
Type de temps.
Ah, type d'accord. De temps.
Ouais. Lorraine-Alsace, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le grand beau temps. Sur le nord, le Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, la région parisienne, la Bourgogne et le Massif central, un ciel parfois couvert, mais lumineux, surtout ce matin. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire, où la pluie arrive d'ailleurs, elle arrive à Angers déjà, sur le Poitou-Charente, l'Aquitaine et le Béarn, ce sont des pluies qui arrivent progressivement et donc là... Le matériel complet pour éviter la pluie est nécessaire. Midi Pyrénées, vallée de la Garonne, Languedoc-Roussillon, un temps souvent menaçant. Il fera 12 degrés à Langres aujourd'hui, 13 à Nancy, 14 à Angers, 15 à Lille et Paris, 16 à Lyon et Nice, 17 à Marseille, 18 à Toulouse et 19 à Cahors. Demain, on en parlera à 10h avec François. Nous allons parler d'un temps qui n'est pas terrible pour demain et encore moins terrible dans le sud pour dimanche.
Merci Laurent Cabrol. Et on revient sur les moments forts de cette matinale spéciale en direct de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon avec vous, Nico Sadiagas.
Nous avons passé 2 heures passionnantes ici dans ce CHU pour observer le quotidien des médecins et du personnel soignant, comprendre l'itinéraire des patients, de leur prise en charge, l'administration de leurs soins aussi. À 7h15, nous étions en direct du centre d'appel du SAMU aux côtés de ceux qu'on appelle les assistants de régulation. Ce sont eux qui vous répondent directement lorsque vous composez le 15, vous êtes un peu paniqué. C'est eux qui dressent le premier diagnostic. Alors ils sont formés pour cela. Il faut un peu de psychologie, il faut incontestablement beaucoup d'expérience, mais ils utilisent aussi l'hypnose pour gérer le stress. Écoutez.
Vous allez simplement essayer de rapprocher votre main gauche de votre main droite. Et vous allez sentir au fur et à mesure une sensation de bien-être. Et là, vous respirez tranquillement, amplement. Est-ce que vous sentez que votre respiration s'est améliorée?
C'est de l'hypnose ou quoi?
Ça y ressemble.
Ouais, je vous en ai là. Ouais.
Voilà.
Téléphone et en direct réalisé par les assistants de régulation. Alors à 7h45, nous étions cette fois-ci aux urgences, le cœur du réacteur de l'hôpital. Karim Tazarour, le professeur et les chefs de service, son quotidien, c'est gérer l'afflux constant des malades. Écoutez.
La force des urgences, c'est de proposer à tous nos citoyens, H24, une solution à un problème de santé. Urgent ou pas, et c'est une des difficultés pour nous, c'est que vous avez un endroit où il y a de la lumière, vous pouvez venir.
Est-ce que vous avez des violences aussi ?
Oui, bien sûr, on est le reflet de la société. Hein. La plupart du temps, nous avons de l'agressivité qui est liée à une incompréhension de ce qu'est un service d'urgence. On passe tous par une infirmière d'organisatrice de l'accueil, qui est une consultation spécialisée, et qui va après vous filiariser. Ce qui ne correspond pas forcément à l'attente des gens, qui voudraient être pris dans l'heure.
Justement, notre reporter Jean-Luc Bougeon a constaté cette tension que peuvent connaître les personnels soignants. Écoutez cette scène, elle a été captée en situation réelle, c'était dans le journal de 7h, écoutez.
J'ai attendu, tout le monde est passé. J'ai juste demandé un antidoulin parce que j'avais mal. Et faut que je pisse ce sang ou quoi ?
Ça sert à rien d'être grossier. Je veux pas vous donner un traitement comme ça. Je veux que vous voyez un médecin.
Il faut être super vigilant parce qu'il faut l'écouter. Puis il faut pas céder en fait. Elle a certainement mal, mais je suis pas un distributeur de médicaments en fait.
Je ne suis pas un distributeur de médicaments. Voilà, il faut de la psychologie, de l'expérience, de l'écoute. On a essayé de partager avec vous le quotidien de ce qui se passe dans un centre hospitalier. À 8h15, c'est la ministre de la Santé, des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui était notre invitée en direct depuis Lyon. Doit-on reporter l'âge de la retraite au-delà de 62 ans ? Voilà sa réponse.
Aujourd'hui, je dis, il y a un problème de société, nous allons vivre beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'on pourra décemment rester à la retraite pendant des dizaines d'années ? Et donc la question que nous devons nous poser, c'est quel est le prix que nous consentons à payer pour notre protection sociale, c'est-à-dire la santé, et l'accompagnement des personnes âgées et de la dépendance ? Et nous savons que le mur arrive devant nous.
Agnès Buzyn, au micro d'Europe 1 ce matin. Voilà pour l'essentiel de la matinale spéciale en direct de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Merci à tous, merci au personnel hospitalier de nous avoir reçus ce matin. Merci aux médecins, à toutes les équipes qui ont préparé sur le terrain cette émission parce que ça se prépare en amont. Un grand merci à notre correspondant à Lyon qui, toute la semaine, est venu décrypter, essayez de comprendre ce qui se passe dans un hôpital. Jean-Luc Goujon, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi. Prenez soin de vous. Demain, c'est Bernard Poirette qui prend le relais à partir de 6h sur notre antenne. N'oubliez pas qu'on se retrouve lundi à 6h50 lors du fameux passage de relais avec Mathieu Noël. Pierre de Villeneuve, merci d'être là, fidèle au poste sur le pont. Salut Céline Dacosta.
Salut Nico, c'est lundi.
Merci Nikos, à lundi. Et c'est à vous, François Claus, le tour de la question. Ça commence dans quelques secondes.
Bien sûr, 39-21 évidemment pour apporter vos témoignages. Cidaction, première heure, et on va parler de la radio de demain à partir de 10h, les fameux podcasts.